Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Non à la guerre, voilà le slogan scandé dans une trentaine de villes russes hier pour dire stop à Vladimir Poutine après l'annonce par le président russe de la mobilisation de 300 000 réservistes prêts à partir au front en Ukraine. Certains préfèrent fuir tout simplement leur pays. L'éolien au menu d'Emmanuel Macron, le président de retour des Nations Unies, inaugure aujourd'hui à Saint-Nazaire le premier parc éolien en mer avec en jeu l'indépendance énergétique française. Reportage dans ce journal. Et puis, 70 000 morts par 1 500 000 Français touchés. On parle de l'insuffisance cardiaque. L'assurance maladie lance une nouvelle campagne avec un objectif, détecter les signes avant-coureurs pour éviter le pire. Quels sont-ils ? Réponse à suivre. Le journal de 5 heures avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Les Russes descendent dans les rues et disent non. Non à l'escalade, non à la mobilisation de 300 000 réservistes annoncée hier par Vladimir Poutine. Hier soir, de nombreuses manifestations ont eu lieu en Russie, au moins 1300 personnes interpellées. Le peuple russe défie l'autorité et dit stop, Wilfried de Villers.
Dès les annonces de Vladimir Poutine, des rassemblements se sont formés dans plus d'une trentaine de villes. De Moscou à Saint-Pétersbourg, en passant par Irkoutsk en Sibérie, des images relayées massivement sur les réseaux sociaux. Non à la mobilisation, non à la guerre, scandent des centaines de personnes dans les rues de la capitale avant d'être dispersées violemment par la police. Dans la ville de Perm, un jeune manifestant fait face aux forces de l'ordre. Je ne veux pas mourir pour Poutine et sa guerre, lance-t-il aux policiers qui l'embarquent. Il y a aussi cette image d'une femme couchée sur le sol, inconsciente, entourée des forces de sécurité. Le scénario est le même dans la plupart des grandes villes. C'est le plus important mouvement de protestation depuis le début de la guerre. Et pendant que certains manifestent, d'autres décident de quitter le pays. Depuis la prise de parole du président russe hier, les ventes de billets d'avion au départ de Moscou ont tout simplement explosé.
Oui, hein, des billets d'avion pris d'assaut en direction de la Turquie, de l'Arménie ou encore de la Géorgie et la Biélorussie. Hier soir, sur les sites de réservation, il ne restait qu'une poignée de billets, dont certains à plus de 1 000 euros. Pour information, c'est 3 fois le salaire médian en Russie.
Cette annonce est intervenue alors que se tenait l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle n'a évidemment pas manqué de faire réagir.
Oui, hein, Volodymyr Zelensky exige un juste châtiment contre Moscou. Le président ukrainien demande aussi la mise en place d'un tribunal spécial et le retrait du droit de veto de la Russie à l'ONU.
Un crime a été commis contre l'Ukraine et nous demandons une juste punition. Une punition pour la violation des frontières et de l'intégrité territoriale. Une punition qui doit être mise en place jusqu'à ce que les frontières internationalement reconnues soient restaurées et que l'agression cesse. Nous pouvons brandir le drapeau ukrainien sur l'ensemble de notre territoire, mais nous avons besoin de temps. Nous sommes prêts pour la paix, mais une paix véritable, honnête et juste. C'est pour cela que le monde est de notre côté.
Et cette nuit, l'Ukraine a annoncé l'échange de 215 prisonniers, notamment des chefs de la défense d'Azovstal, la Syrie assiégée à Marioupol, symbole de la résistance. De l'autre côté, la Russie récupère 55 personnes qui, selon Volodymyr Zelensky, ne méritent ni regret ni sympathie.
Les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis cette nuit en urgence à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.
Oui, réunion informelle pendant laquelle les 27 ont décidé d'examiner de nouvelles sanctions contre la Russie, fait savoir Josep Borrell, le haut représentant pour la politique étrangère. Il annonce aussi une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine.
Europe 1 5h04, retour en France avec ce vent de colère au large d'Oléron contre un projet de parc éolien.
Alors c'est le premier parc éolien en mer de France. Emmanuel Macron, de retour aujourd'hui, l'inaugurera ce matin. Il y présentera aussi les grands axes du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Un parc gigantesque de 80 unités censé produire 20% de l'électricité consommée en Loire-Atlantique. Problème, les habitants de Batte-sur-Mer qui aimaient tant leur paysage sont en colère. Le reportage de notre correspondant européen Charles Guyard.
Ce qu'on aime, c'est l'immensité de l'océan, l'horizon avec la courbe de la Terre.
Le panorama, voilà pourquoi Christian a succombé au charme de Basse-sur-Mer il y a plusieurs années. Et à l'époque de chez lui, la vue était bien dégagée.
Et là, on se retrouve avec quand même des poteaux. Hein.
Par temps clair, on ne voit désormais que cela, une forêt de pylônes coiffée d'éoliennes. Le premier parc offshore français est certes à 12 km du rivage, mais les structures mesurant près de 200 mètres de haut, contrairement à ce qui avait été annoncé au début du projet, elles ne se fondent pas vraiment dans le paysage.
On les
prend vraiment plein les yeux.
Bruno Schmitt est adjoint à l'urbanisme et à l'environnement.
La fameuse image où on tient une allumette et où on nous disait que l'impact visuel ne sera pas plus grand que ce qu'on voit au bout de son doigt, c'est pas ce qu'on nous avait annoncé. On aura toujours maintenant cette rangée d'éoliennes qui seront là.
Un préjudice qui mériterait donc, selon la mairie, une indemnité supérieure aux 277 000 euros annuels prévus par la chambre de compensation. Malgré cela, dans la commune la plus impactée du littoral, on sait aussi faire la part des choses. L'esthétique, c'est bien. Les énergies propres, c'est l'avenir.
Évidemment, c'est moche, hein, mais bon, c'est un mal pour un bien.
Basse-sur-Mer, Charles Guyard, Europe 1.
Et l'objectif à terme, c'est d'implanter une cinquantaine de parcs éoliens similaires en France.
La meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. À l'heure de la sobriété, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présente son plan pour faire des économies dans les lycées de la région.
Une enveloppe de 80 millions d'euros pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie, puisque la facture devrait augmenter de 100 millions d'euros cette année. Alors, il faut la diviser par deux, martèle Laurent Wauquiez. Il a présenté ses solutions à notre correspondant européen Jean-Luc Boujon.
Première mesure, limiter la température dans les classes, 19 degrés autorisés, pas plus. La consigne a été passée à tous les proviseurs. La région va ensuite s'attaquer à l'éclairage. Fini les ampoules classiques, place désormais au LED dans tous les lycées de la région, explique Laurent Wauquiez.
On va changer 1 million d'ampoules LED dans la région sur nos 560 lycées. Vous gagnez 10% sur votre consommation. Ça va être un chantier colossal, mais on sait que là, on gagne des millions d'euros. Donc ça a commencé et l'objectif est qu'on ait tout fini avant le mois de Noël. Je préfère payer des ampoules que de payer du gaz russe. J'ai aucun état d'âme la matière. Et puis c'est un investissement qui va me rapporter chaque année et qui va protéger l'argent du contribuable et améliorer l'environnement.
Autre mesure toute simple, le nettoyage des locaux se fera désormais partout à l'eau froide et non plus à l'eau chaude. Un gain minime, reconnaît le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vu le contexte, il n'y a pas de petites économies. Enfin, dans les mois qui viennent, la région va financer la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de 400 lycées, ceux où cela est possible. Tous les parkings seront également recouverts de panneaux solaires afin de produire de l'électricité et de faire diminuer la facture totale. Le but, c'est d'économiser 50 millions d'euros par an. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et en attendant, Laurent Wauquiez promet des rallonges budgétaires à certains établissements pour couvrir les frais supplémentaires.
70 000 morts chaque année à cause de l'insuffisance cardiaque. C'est une pathologie encore trop méconnue.
Elle touche pourtant 1 500 000 Français. En conséquence, l'assurance maladie lance à partir de dimanche une grande campagne de prévention et de sensibilisation avec notamment des spots publicitaires et des vidéos qui seront diffusées chez nos médecins ou dans nos pharmacies. Yasmine Akatou, l'objectif là, c'est de détecter l'insuffisance cardiaque à temps, les signes avant-coureurs pour éviter le pire.
Ce sont des signes qui peuvent paraître anodins, mais qu'une personne peut ressentir plusieurs semaines avant un infarctus, par exemple. Stéphanie Schramm est médecin responsable des maladies chroniques à l'assurance maladie. Elle détaille les symptômes d'une insuffisance cardiaque.
C'est souvent confondu avec des signes du vieillissement. C'est un essoufflement, un souffle court, une difficulté à dormir. C'est une prise de poids importante. Et puis des gonflements au niveau des pieds, au niveau des mains, ça peut être une fatigue inhabituelle.
Si plusieurs de ces signes sont ressentis en même temps, le malade doit rapidement consulter un médecin pour débuter un traitement. Et en plus des médicaments, l'hygiène de vie est tout aussi importante.
Faire de l'exercice physique, ça peut être de la marche, aller faire ses courses, hein, et puis pas trop saler son alimentation, parce que ça, c'est un facteur favorisant des œdèmes et du dysfonctionnement du cœur.
Grâce au repérage des symptômes et à une prise en charge rapide, des séquelles à vie sont évitées. Chaque année, 200 000 personnes sont hospitalisées à cause d'une insuffisance cardiaque.
Yasmina Katou.
Allez, on termine ce journal avec le récit d'une success story, celle de Valérie Marie.
Et oui, Europe 1 vous fait découvrir le seul en scène de la pianiste au théâtre Tristan Bernard à Paris. Valérie Marie nous raconte son parcours, ses difficultés pour vivre de sa passion, le piano. Elle nous explique aussi comment, pour réussir, elle a toqué à toutes les portes, quitte à les forcer pour qu'enfin la chance lui sourie. La suite, c'est Marie Jiquel qui nous la raconte.
Alléluia, cette chanson mythique de Leonard Cohen, à l'aura puissante, a porté chance à Valérie Marie. Un soir de déprime, à l'aéroport de Toulouse, la responsable marketing se met à jouer sur un piano. Un inconnu s'invite et chante. La scène filmée est diffusée sur les réseaux sociaux. 13 millions de vues dans le monde entier. La vie de Valérie Marie bascule.
1 million en 2 jours et demi, on m'écrit, vous avez fait la même viralité que Despacito.
Mais avant ce coup d'éclat, Valérie Marie a connu des coups de blues. Son enfance très modeste, sa passion délaissée pour des études de commerce, ses rendez-vous manqués avec les stars. des anecdotes racontées, les mains sur son clavier.
J'ai l'impression d'avoir composé le spectacle et surtout la bande son de ma propre vie avec des morceaux que j'affectionne, qui s'appellent Goldman, mais qui s'appellent aussi le Requiem de Mozart, des chants grégoriens, des chants. Et là, tout d'un coup, tout le passé avec cette musique revient.
La pianiste a d'autres rêves à réaliser, comme rencontrer son idole.
Georges Goldman a l'information qu'il est cité dans mon spectacle et que je suis fan, voilà.
Et acheter un piano à queue.
Marie Jiquel, une vie au bout des doigts de Valérie Marie. C'est au théâtre Tristan Bernard dans le 8e arrondissement de Paris jusqu'au 17 décembre. Et c'est avec Europe 1, bien sûr.
Et c'est noté. C'était le journal de 5h sur Europe 1. Merci Alban Le Prince.
À 5h10, on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Et football pour débuter après le vol en classe affaires, place au sport, enfin, pour l'équipe de France.
Et oui, les Bleus reçoivent l'Autriche ce soir en Ligue des Nations pour le premier des deux derniers matchs de la compétition, avec deux objectifs en ligne de mire pour l'équipe de France. Tout d'abord, se maintenir dans le groupe d'élite de la Ligue des Nations, ainsi que se préparer pour la Coupe du Monde qui débute dans 2 mois. Une tâche qui s'annonce compliquée au vu de l'avalanche de joueurs blessés. Mais le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a confiance en son groupe.
Vous savez, notre calendrier, évidemment, c'est les deux derniers matchs qui vont précéder l'immense défi qui nous attend au mois de novembre. Quoi qu'il se passe, l'objectif est toujours le même, c'est la recherche de la performance. Et à partir de là, c'est à travers le contenu et le résultat. Ce groupe-là, je les ai choisis, j'ai confiance en eux.
Didier Deschamps au micro de Cyril de la Morinerie, France-Autriche. Un match à suivre en intégralité ce soir à partir de 20h dans Europe 1 Sport.
Toujours en football, Dimitri, nouveau rebondissement dans l'affaire Amraoui.
Et oui, avec la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'Aminata Diallo hier soir après 5 jours d'incarcération. Mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs, elle clame toujours son innocence et nie toute implication dans l'agression de son ex-coéquipière Kaira Amraoui.
Basket à présent avec le mondial féminin qui débute aujourd'hui.
Et oui, notamment pour l'équipe de France qui affronte l'Australie. Mais entre les blessures et une poule relevée, cette Coupe du Monde s'annonce difficile pour nos Bleus, comme nous l'explique la joueuse tricolore Gabby Williams.
Oui, peut-être on peut faire une petite surprise ce tournoi, j'espère. Et en plus, je pense qu'on n'a pas beaucoup de pression. On va essayer de profiter et quand tu joues comme ça, les bonnes choses arrivent.
Un an après avoir obtenu une médaille de bronze aux JO de Tokyo, l'équipe de France assume ce nouveau statut d'outsider dans ce tournoi qui débute pour elle à 12h30 face à l'Australie.
Des mondiaux en cours, mais cette fois, c'est en cyclisme.
Et oui, les Suisses ont remporté hier la médaille d'or du relais mixte, mais l'épreuve tant attendue est celle de la course en ligne dimanche, où Julian Alaphilippe va tenter de défendre ses 2 titres obtenus en 2020 et 2021. Cependant, gêné par des blessures tout au long de la saison, le Français ne sait pas s'il pourra réaliser le fameux triplé. Mais il l'assure, il va tout donner.
Je ne suis certainement pas à 100%, mais j'ai vraiment envie de me faire mal, vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur cette course. Et voilà, on n'est certainement pas les grands favoris de dimanche, mais on peut vraiment rendre la course encore plus dure et essayer de peser dans le final et d'être là pour aller jouer avec le maillot encore. Donc ça sera l'objectif et je serai content de contribuer à tout ça.
Julian Alaphilippe, joint par Axel May. Alors gardera-t-il pour une 3e saison le maillot arc-en-ciel? Réponse dimanche.
Merci beaucoup Dimitri Vernet. Les sports sur Europe 1 et on passe à présent aux courses à 5h13. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 610 Fiesta Dancer en demi-teinte lors de sa dernière tentative le 5 septembre sur l'hippodrome de Cran, jugez-la plus tôt sur ses 7 sorties précédentes où elle s'est imposée par 3 fois et obtenu 4 secondes places. Revenant cet après-midi sur un parcours qui lui a déjà bien réussi, nul doute que cette jument fiable devrait pouvoir reprendre le cours de ses bons résultats. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 10, Fiesta Dancer.
Merci Thierry Léger, vous revenez nous voir dans une demi-heure sur Europe 1 avec vos pronostics du Quintet 5h14. Très bon réveil à tous à notre écoute. Dans un instant et comme chaque matin, une histoire dingue. Anissa va vous raconter l'histoire d'une femme atteinte d'une maladie aussi rare qu'étonnante. A tout de suite.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Excellent réveil sur Europe 1. Vous arrivez pile à temps pour l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Ce matin, Anissa, vous nous faites découvrir le quotidien très compliqué d'une patiente anglaise.
Et oui, nous allons parler émotion ce matin. Alors, concentrez-vous, Omblin, les auditeurs. Si je vous fais écouter ça, que ressentez-vous?
J'aurais tant voulu qu'on fasse notre vie ensemble, toi et moi, au fond d'une famille. Mais la vie ne m'a pas demandé mon avis. C'est Dani maintenant que je vais aimer de tout mon cœur.
pleurer, Ombline.
Bah oui.
Je vois cette petite...
Bah oui, j'ai les larmes qui tombent. Beaucoup d'émotions.
Oui. Extrait de Pearl Harbor. Évidemment. Bon, quand on connaît la fin, on sait que cette scène, finalement, elle n'est pas, voilà, pas si importante que ça. Mais non. On a envie de pleurer. Notre petit cœur se saigne. Tiens, autre ambiance. Alexandre.
Oui.
Là, les auditeurs qui se réveillent, qui sont déjà sur la route. Vous ressentez quoi quand vous entendez ça?
Tu me vois?
Je vous préviens. Je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police.
Ils arriveraient trop tard. Voilà ce que c'est que d'habiter un coin paumé.
Mais qu'est-ce que vous me voulez?
Voir la couleur de tes tripes.
Pas bien.
Voilà, on est dans l'ambiance un corbeau, ambiance chantage là.
Ouais, c'est ça. C'est ouais, on a peur, on a des frissons, vous êtes tout blanc, Alexandre.
Ça, bon. C'est normal ça.
Et tous les deux, vous avez donc ressenti des émotions. Eh bien, j'espère que ce matin, Wendy Richmond ne nous écoute pas.
Alors, qui est cette Wendy Richmond alors?
Eh bien, c'est une Anglaise, mère de famille de 53 ans, qui se bat contre une maladie rare avec des symptômes très très étonnants et handicapants. Écoutez bien. Elle se paralyse dès qu'elle ressent la moindre émotion. Mais ce n'est pas le plus grave. Si jamais Wendy dit « je t'aime », elle glisse dans un sommeil éveillé comme une sorte de coma.
Oh, c'est bizarre.
Wendy raconte « je veux simplement prendre mon enfant dans les bras, lui dire « je t'aime », mais je crains que cela soit dangereux pour nous deux. Cela pourrait déclencher un épisode et je pourrais m'effondrer sur le sol, blessant Meghan et moi-même. C'est assez bizarre de penser que je ne peux pas dire à ma famille que je les aime sans tomber. »
Bah oui, à moins d'avoir un cœur de pierre, c'est assez handicapant au quotidien. Est-ce qu'il y a un traitement?
Eh bien, malheureusement, le traitement contre cette maladie est hors de prix. Donc aujourd'hui, je lance un appel à tous les Anglais. Ils étaient occupés là, ces 15 derniers jours, les Anglais.
Non, ça va.
Là, c'est bon, la pression redescend. Les Anglais, si vous nous écoutez, Wendy essaye désespérément d'obtenir de l'aide de l'État pour financer son remède. Les médecins pensent que l'oxybate de sodium pourrait guérir Wendy. Malheureusement, ce médicament commercialisé sous le nom de Xyrem coûte 9000 livres par an.
Ce qui fait plus de 10 000 euros.
Plus de 10 000 euros. Ouais. Plus de 10 000 euros par an pour se soigner. Et puis Wendy raconte surtout qu'il y a de nombreuses personnes atteintes de ce syndrome, sauf qu'elles ne le savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans les pommes ou qui ont des espèces de pertes de conscience comme ça, mais elles ne savent pas forcément que c'est cette maladie. Wendy l'a identifiée dès qu'elle dit je t'aime ou dès qu'elle ressent le moindre sentiment. Eh bien, elle s'effondre.
C'est incroyable. Elle s'évanouit quand elle ressent une émotion.
Ben oui, j'en reste bouche bée. Mais...
faites gaffe, vous allez vous évanouir.
Non mais c'est assez dingue, merci beaucoup.
Oui, alors comme nous dit Fabrice Lafitte, le réalisateur, d'où l'expression tomber amoureux.
Voilà,
merci Fabrice.
On tombe littéralement par terre. Merci beaucoup Anissa Dadi pour votre histoire et à tout à l'heure dans un quart d'heure, dans 10 minutes pour votre météo.
Europe Matin.
5h18 sur Europe 1, les titres de ce jeudi 22 septembre, Albane Leprince.
Plus de 1300 personnes interpellées dans une trentaine de villes en Russie, manifestations en nombre hier soir pour protester contre la mobilisation de 300 000 réservistes annoncée par Vladimir Poutine dans la matinée. D'autres préfèrent l'exode. Les avions au départ de Moscou affichent presque tous complets. De son côté, dans une vidéo diffusée à l'Assemblée générale des Nations Unies, Volodymyr Zelensky a demandé la création d'un tribunal spécial pour châtier la Russie. Il a également réclamé le retrait du droit de veto de Moscou à l'ONU. De retour de New York, Emmanuel Macron a rendez-vous à Saint-Nazaire. Ce matin, il inaugurera le premier parc éolien en mer et présentera le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Et puis au Mureau, dans les Yvelines, le conducteur d'une voiture qui avait traîné un policier au début du mois vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. À 36 ans, son casier judiciaire affiche 23 condamnations.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Allez, de l'énergie et du courage pour commencer cette journée de jeudi. Très bon réveil, 5h19. Les initiatives en France avec un rendez-vous ce week-end pour les amateurs de vacances en camping-car.
Et pas seulement à bord d'un van ou d'une caravane aussi. Bonjour Stéphanie Dupérier.
Bonjour.
Vous êtes la responsable communication du Salon des véhicules de loisirs du Bourget. Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour parler de cette 56e édition du Salon des véhicules de loisirs de Paris qui ouvrira ses portes ce samedi au Parc des expositions de Paris-le-Bourget. Un salon comme celui-ci, Stéphanie Dupérier, ça nous permet de découvrir les dernières grandes nouveautés en matière de véhicules de loisirs. C'est quoi la tendance en 2022?
Tout à fait. Alors, la grande tendance reste quand même le van et le fourgon aménagé qui explosent chaque mois dans les immatriculations. Donc ça, c'est vrai que c'est la grande tendance du moment. Et on voit revenir sur le marché les caravanes. La caravane revient et est tendance depuis l'année dernière. On a vu beaucoup de personnes assez intéressées sur les stands de caravanes. puisque c'est pratique, on peut poser sa voiture, laisser la partie de logement et après aller se balader. Donc c'est vrai que ça séduit pas mal. Ensuite, vous allez avoir les camping-cars de plus en plus compacts. Cette année, on va avoir des camping-cars de plus en plus compacts pour pouvoir justement être plus passe-partout, on va dire.
Oui, parce qu'on a tous en tête l'image de ces camping-cars immenses aux États-Unis, des bus de plusieurs mètres de long. En France, on choisit ce que vous venez de dire, le van, le fourgon et donc le petit camping-car pour pouvoir être plus mobile finalement.
Voilà, exactement. Alors, je vous rassure, au Salon des véhicules de loisirs, on va pouvoir voir aussi des camping-cars, ce que l'on appelle les XXL, oui. Donc rêver avec la voiture dans le coffre. Ça, on pourra le voir au Salon des véhicules de loisirs, mais déjà, c'est un autre budget. Mmh. Et puis, c'est vrai que pour se déplacer, c'est beaucoup moins facile. Donc, effectivement, oui. Comme vous dites, les Français se tournent de plus en plus vers les camping-cars plus compacts et les constructeurs l'ont bien compris et font des camping-cars assez compacts en longueur et en hauteur.
Ces petites maisons sur roues, que ce soit donc les caravanes, les mini-caravanes, les vannes, débordent d'aménagements de plus en plus astucieux et ingénieux. Quelles sont les innovations qui devraient justement le plus nous interpeller cette année ? Est-ce que vous en avez quelques-unes en tête ?
Oui, j'en ai quelques-unes qui sont plutôt en plus rigolotes. C'est par exemple un aspirateur intégré dans le camping-car. Ah oui. Donc, on n'a pas besoin de prendre avec soi l'attirail de ménage. Il est encastré dans le camping-car, donc on peut passer l'aspirateur comme ça un peu tous les jours et un peu tout le temps pour les plus maniaques. Ensuite, il y a ce que l'on appelle la salle de bain 2 en 1. Donc, c'est une cloison amovible. Et quand on tourne, ça devient soit le cabinet de toilette, soit la douche. Pour gagner en espace. Mmh. Ensuite, on a aussi, comme les tendances maison, des cuisines verrières. Donc, du coup, la cloison est en verrière, ce qui donne un plus d'espace pour la pièce à vivre. Nous avons aussi les lits où on appuie sur un bouton et il descend, comme ça on gagne en place. Donc, la journée, il est au plafond et la nuit, il est en bas. Ce sont plein de petites choses qui sont astucieuses pour gagner en espace, effectivement, et pour qu'il y ait le plus de couchage possible également et de rangement.
Oui, les concepteurs aujourd'hui sont jamais à court d'idées pour nous faire gagner, de ce que vous dites, de la place et puis du confort. C'est important puisqu'on part en vacances, on n'a pas envie d'être les uns sur les autres et on a envie d'être bien installé.
Tout à fait. C'est vrai qu'ils s'attachent beaucoup, les constructeurs, au confort et à l'ingéniosité du rangement avec des soutes un peu partout dans le camping-car pour pouvoir... voyager avec pas mal d'affaires également. Les frigidaires deviennent avec un format plus grand également. On essaye de gagner de l'espace un peu partout où l'on peut pour pouvoir permettre un confort optimum.
On va trouver toutes sortes de véhicules. On vient d'en parler ensemble, Stéphanie Dupérier, mais aussi on peut posséder déjà un petit camion ou un fourgon, et on va pouvoir rencontrer des sociétés qui proposent de le modifier, de créer un aménagement sur mesure.
Tout à fait. En plus, on peut personnaliser son van chez les constructeurs également. Et on peut, bien sûr, aménager son van ou son fourgon. Mmh.
Depuis la crise sanitaire, le camping-car est de plus en plus à la mode. Qu'est-ce qui séduit particulièrement les acquéreurs, selon vous, qu'ils soient nouveaux ou ceux qui souhaitent changer de véhicule ? C'est la liberté, l'absence d'attache, pouvoir partir.
Bien sûr, oui. C'est la liberté de pouvoir partir à tout moment, sans réservation, sur un coup de tête, où l'on veut. Donc ça, c'est vrai que pour la liberté, et puis c'est vrai que avec la crise sanitaire, c'était vraiment la bulle, être chez soi, mais sans voir trop de monde. Et ça, c'est vrai que ça, c'était un bon compromis pour les vacances pendant la crise sanitaire.
Et faire des économies sur nos vacances aussi, on sait que l'achat d'un véhicule est conséquent, mais au final, partir à bord de son véhicule de loisir, c'est aussi faire des économies sur la location.
Bien sûr,
maison.
Parce qu'on gère son budget comme on veut, comme à la maison. Si l'on veut aller dans les restaurants, on le fait. Mais si on veut prendre tous ses repas dans le camping-car, on peut également. Le logement est compris, le moyen de locomotion également. Donc, c'est vrai qu'on peut gérer son budget complètement de A à Z.
Ça séduit de plus en plus les Français. Un grand choix de véhicules sera proposé tout au long de ce 56e Salon des véhicules de loisirs de Paris qui se tiendra donc dès ce samedi 24 septembre et jusqu'au 2 octobre au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget. Merci beaucoup Stéphanie Dupérier d'avoir accepté cette interview avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la responsable communication du Salon. Bonne journée.
Merci beaucoup. À vous aussi, au revoir.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une de l'actualité, le régime iranien mise plus que jamais sur la répression pour faire taire la contestation. Cinq jours après la mort suspecte de Mahsa, les manifestations hostiles au pouvoir se multiplient en Iran, mais aussi dans les grandes capitales étrangères. Il faut châtier la Russie. Déclaration du président ukrainien Zelensky aux dirigeants du monde. La décision de Moscou d'annexer une partie du territoire ukrainien en agitant le feu nucléaire déclenche une avalanche de protestations. Joe Biden accuse Moscou de violer les principes des Nations Unies. Dans ce journal également, la NUPES toujours dans la tourmente. L'affaire Quatennens et Bayou est dans toutes les têtes. Difficile dans ces conditions de se faire entendre à l'Assemblée. Le journal de 5h30 avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est une vague de contestation qui menace d'emporter le pouvoir iranien cinq jours après la mort suspecte de Mahsa, jeune femme arrêtée pour avoir mal porté le voile. Les rassemblements se multiplient, une quinzaine de villes, dont la capitale Téhéran, sont le théâtre de violents affrontements avec les autorités. Le bilan est déjà lourd, au moins 6 morts. Ce combat pour la liberté des femmes s'exporte aussi à l'étranger. Exemple à Istanbul en Turquie, où des iraniennes se sont rassemblées devant le consulat iranien. Reportage sur place de notre correspondant Rémi Trio.
Mon corps, mon choix. Le slogan féministe est repris par une centaine d'iraniennes. Presque aucune ne porte le voile. Elles brandissent des photos de Mahsa Amini et certaines se coupent des mèches de cheveux pour dénoncer l'oppression des femmes en Iran.
Je ne pouvais pas rester en Iran. Ils ne me laissaient rien faire juste parce que je suis une femme. Pourquoi ont-ils tué une fille de 22 ans seulement à cause du port du voile ?
Anissa, cheveux courts teints en rose, raconte la terreur que fait régner la police des mœurs dans son pays.
Nous avons peur de la police. Ils nous disent toujours qu'on doit porter correctement notre voile. On n'a pas le choix. Ils sont brutaux. Ce sont des tueurs.
Et vous n'avez pas peur de participer aux manifestations en Iran ?
Cette fois, je préfère mourir. Je suis prête pour ça. Peut-être que si je verse mon sang, je serai à l'origine d'un changement. Je n'ai pas peur.
L'ayatollah Khamenei est un assassin, scandent les protestataires qui espèrent la chute du régime des Mollahs. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.
Un combat pour la liberté et l'égalité salué par Joe Biden. Le président américain dit sa solidarité avec les Iraniennes et parle d'elles comme des femmes courageuses.
C'est des propos tenus à la tribune des Nations Unies. Joe Biden qui a eu des mots très durs à l'encontre de Vladimir Poutine.
Et Moscou fait appel aux réservistes et se dit prêt à recourir à l'arme nucléaire en cas de besoin. Menace prise très au sérieux par les Américains. Cela n'a pas empêché le président Joe Biden de dire tout ce qu'il pensait de l'attitude des Russes et de Vladimir Poutine dans cette guerre. On l'écoute.
La Russie a violé de manière éhontée les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui même, le président Poutine a ouvertement proféré des menaces nucléaires contre l'Europe et fait preuve d'un mépris irresponsable vis-à-vis des obligations du régime de non-prolifération. Maintenant, la Russie appelle davantage de soldats à rejoindre le combat et le Kremlin organise un simulacre de référendum pour tenter d'annexer certaines parties de l'Ukraine. Cette guerre a pour but d'anéantir le droit de l'Ukraine d'exister en tant qu'État et le droit de l'Ukraine d'exister en tant que peuple. Où que vous viviez, quelles que soient vos convictions, cela devrait vous glacer le sang.
Joe Biden, hier soir, à la tribune des Nations Unies, les Occidentaux qui envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie. La question est sur la table, c'est ce qu'a dit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à l'issue d'une réunion informelle avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.
La Russie franchit donc un cap en décrétant la mobilisation partielle, décision qui a aussitôt provoqué le départ précipité de nombreux Russes, appelés potentiels.
Ouais, les Russes qui se sont rués sur les billets d'avion dès l'annonce de Vladimir Poutine. Les vols directs vers les capitales étrangères comme Istanbul ou Minsk ont été prises d'assaut. Même scène sur la route, 35 km de bouchons pour passer la frontière avec la Finlande. Manifestation aussi dans une quarantaine de villes russes pour dire non à la guerre. Près de 1500 opposants ont été arrêtés.
Europe 1, 5h34, la NUPES tente de passer à autre chose après les révélations sur les affaires Quatennens et Julien Bayou.
Et plus facile à dire qu'à faire. Adrien Quatennens, tout comme Julien Bayou pour les écologistes, conserve en l'état leur siège de député, mais ils n'ont plus la moindre fonction dans leur parti respectif. La gêne reste malgré tout palpable chez leurs collègues parlementaires. Difficile de défendre des textes à l'Assemblée quand tout vous ramène aux affaires en cours, Alexandre Chauveau.
Oui, hier, les absences remarquées d'Adrien Quatennens et de Julien Bayou ont pris le pas sur l'exposé des parlementaires de gauche. Manuel Bompard, député insoumis des Bouches-du-Rhône, tente malgré tout de désamorcer la crise.
La NUP n'est pas en crise. La preuve, elle vient de tenir une conférence de presse commune
elle se projette dans les batailles qui viennent. Nous sommes déterminés maintenant à faire en sorte que nous puissions mener le travail politique qui est le nôtre. Il y a des millions de Français qui comptent sur le travail que nous faisons ici et ils peuvent compter sur nous pour le faire.
Alors chez les Verts ou à la France Insoumise, chacun reconnaît que la gauche tâtonne dans la riposte face à l'accumulation des révélations ces derniers jours. Mais Mathilde Panot, chef de file des Insoumis à l'Assemblée, refuse pour autant les critiques venues des autres partis, de la majorité notamment.
Celles et ceux qui sont en train de faire les donneurs de leçons et qui ont eu comme ministre M. Abad, M. Darmanin, d'abord nettoient devant leur porte. Je veux dire, cette question-là, elle est sérieuse. Elle ne peut pas être utilisée de manière politicienne sur les uns ou les autres.
Une réponse à Aurore Berger qui réclamait le retrait d'Adrien Quatennens de l'Assemblée. 3 mois après sa création, la NUP traverse ainsi sa première vraie crise, ce qui la rend pour l'instant inaudible sur d'autres sujets.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
On pensait en avoir terminé avec le Covid. Eh bien, le directeur général de la Santé confirme l'arrivée en France de la 8e vague.
Jérôme Salomon s'en explique dans Complément d'enquête qui sera diffusé ce soir sur France 2. Respect des gestes barrières et vaccination des personnes à risque font partie des recommandations. Le nombre de cas positifs repart effectivement à la hausse, près de 30 000 en moyenne chaque jour. Pas ou très peu d'incidence sur les hospitalisations qui restent à un faible niveau pour le moment.
Le football, c'est France-Autriche ce soir. On a connu meilleur moment pour disputer un match du côté des Bleus.
Un coup d'envoi à 20h45 au Stade de France. Contexte effectivement particulier à 2 mois d'une Coupe du Monde. Les forfaits sur blessures s'accumulent. 11 joueurs et non des moindres sont absents. Les affaires judiciaires et les révélations sur les mœurs de la fédération éclatent au grand jour. Cyril de la Morinerie, on en vient presque à oublier qu'il y a effectivement un match ce soir.
Oui, à part l'affaire Karim Benzema, en son temps, jamais Didier Deschamps n'avait été confronté à une telle situation. L'actualité des Bleus est polluée par les affaires, par l'épineux dossier des droits à l'image. Quant aux graves ennuis de Paul Pogba, il touche beaucoup le vestiaire. En particulier, Raphaël Varane, le défenseur ami de longue date du Turinois, lui a apporté en conférence de presse son soutien. Le climat est pesant, mais Didier Deschamps est imperturbable et reste dans sa bulle.
L'atmosphère, elle est ce qu'elle est. Voilà, moi, je me focalise sur ce qui se passe en interne. Moi, je suis coupé du monde extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois, ce que j'ai à faire avec mes joueurs. Même si là, ça a été accentué par le nombre de changements et de rechangements, je m'adapte aussi.
Car Didier Deschamps est aussi confronté à une cascade de blessures inédites. Le groupe est moins expérimenté, privé notamment de son capitaine Hugo Lloris. Cela dit, la France conserve des atouts importants. Dans les buts, Mike Maignan, excellent avec le Milan AC, le milieu du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, et bien sûr, l'incontournable Kylian Mbappé. Les Bleus qui n'ont pas gagné un match en juin espère se relancer dans la Ligue des Nations afin d'éviter la relégation.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. France-Autriche ce soir à 20h45 à Saint-Denis. Rencontre à suivre en direct sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport, prise d'antenne à 20h. Au chapitre des affaires qui défraient la chronique du football français, Aminata Diallo vient d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire. Décision aussitôt contestée par le parquet de Versailles qui a fait appel. L'ex-joueuse du PSG reste mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. La justice la soupçonne d'être la commanditaire de l'agression de son ex-coéquipière au PSG, Kera Amraoui. Enfin, l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de basket. La France affronte le pays hôte, l'Australie, l'un des favoris de cette compétition. Match à 12h30, bien sûr, heure française.
Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve tout à l'heure à 7h, 5h38 sur Europe 1. Les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, c'est sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet. Une course au trot attelé sur la distance de 2700 mètres qui réunira 16 chevaux âgés de 6 à 9 ans, tous bien connus des turfistes. Et dans cette épreuve intergénération, priorité aux plus jeunes. Avec les numéros 4 Galileo Bello et 1 Applewise Ice, deux des 3 seuls 6 ans au départ de ce quintet et jugés sur ce qu'ils ont réalisé de mieux, ils possèdent à l'évidence tous les deux une toute première chance. On leur opposera les numéros 16 El Presidente, idéalement engagé au plafond des gains à la limite de la qualification, 14 Ingo, un trotteur suédois très confirmé à Vincennes et plus particulièrement sur le parcours qui nous intéresse, et 11 Finn Pearl of Love, en plein boom actuellement à l'image de ses compagnons d'entraînement. Enfin les numéros 12 Federangeval, 13 Destin Carizet et 9 Divine de Navarry compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4 As 16, 14, 11, 12, 13 et 9.
4, As, 16. Europe1.fr pour retrouver tous ces pronostics si vous n'avez pas eu le temps noter comme moi ou si vous essayez de le faire de tête. Merci beaucoup Thierry Léger.
cet adversaire.
Allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Et voici le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
On se souvient aujourd'hui des inondations meurtrières de Vaison-la-Romaine. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
Il y a 30 ans précisément, septembre 1992, on découvre les terribles images des inondations de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. 37 personnes trouvent la mort. Lors, vous revenez à travers les archives d'Europe 1 sur cet événement tragique.
Oui, après des pluies diluviennes pendant 3 heures, un torrent d'eau et de boue emporte tout sur son passage. Les maisons s'effondrent, englouties par les eaux.
On a eu au pont romain qui fait 15 mètres de haut, l'eau a dépassé de 2,50 mètres, a tout emporté sur son passage.
Quelqu'un qui a à peu près 65 ans, il m'a raconté qu'il était dans sa caravane a été broyée tout d'un coup, et ils ont été éjectés, ils se sont accrochés à un arbre, ils flottaient dans l'eau. Ils s'accrochaient aux arbres, ils avaient de l'eau jusqu'au cou.
À l'origine de ces inondations, il y a des orages violents, mais rapidement, d'autres questions se posent.
Certains habitants, par exemple, s'étonnent qu'on ait laissé construire une zone artisanale, complètement ravagée ce soir, et plusieurs maisons dans le lit mineur d'une rivière sujette à des crues, et eux ne veulent plus y revenir.
On entend ici le journaliste d'Europe 1, Roger Hardouin. Pour beaucoup d'experts à l'époque, le phénomène météorologique violent n'explique pas tout.
Et d'ailleurs, rapidement après la catastrophe, des spécialistes pointent la grande imprudence des règles de construction de l'époque.
Oui, construction en zone inondable, urbanisation inappropriée autour de la vieille ville, réponse immédiate du maire de Vaison-la-Romaine.
Je pense que tout a été construit de toute façon en conformité avec les règlements d'urbanisme de la ville, qui ont été approuvés par tout le monde.
Mais pour vous, ce n'était pas une zone à risque?
Ah mais en bord de Douvèze, tout est à risque. Un orage normal, il n'y a pas de risque. C'est quelque chose qui n'était pas prévisible avec cette intensité. De mémoire de Vaisonnet, ça n'a jamais existé. Il faudrait remonter bien loin pour avoir quelque chose d'aussi important.
Et à l'époque, le leader de Génération Écologie, Brice Lalonde, explique sur Europe 1 que c'est difficile pour les maires d'empêcher l'urbanisation.
Beaucoup d'élus disent, bah, vous revenez sur la décentralisation, c'est nous qui devions décider, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'élu, par exemple, mais je ne les mets pas en cause, c'est très difficile pour eux de refuser de donner un permis de construire s'il doit se faire réélire et tout. Donc maintenant, je pense qu'il faut que ce soit le ministère de l'Environnement qui empêche de construire n'importe où.
300 maisons ont été détruites lors de ces inondations et désormais, aujourd'hui, dès que le niveau de la rivière dépasse 2,20 m, un premier plan de vigilance est enclenché.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche. À demain pour un nouveau jour où sur Europe 1.
5h42, merci si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Dans un instant, je reçois la directrice du planning familial. Beaucoup de sujets d'actualité à aborder ce matin. La contraception, l'éducation sexuelle, le dépistage des infections sexuellement transmissibles. À tout de suite.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Ces derniers jours ont apporté plusieurs avancées pour les femmes et pour les jeunes. C'est d'abord la généralisation de la gratuité de la pilule du lendemain. C'est aussi un élargissement du dépistage des infections sexuellement transmissibles. Il reste en revanche des progrès à faire. Un rapport officiel révèle la pauvreté de l'éducation sexuelle à l'école. Vous abordez ce matin tous ces sujets avec votre invité Alexandre Marianne Gnosi, qui est la directrice du planning familial.
Bonjour Marianne Gnosi.
Oui, bonjour.
Alors, on rappelle d'abord que votre mouvement, le planning familial, est une association féministe. Vous défendez l'éducation à la sexualité, la contraception, l'avortement. Vous défendez aussi l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Autant de sujets qui vous placent au cœur de l'actualité ces jours-ci. Je voudrais d'abord vous faire réagir à cette annonce du ministre de la Santé, François Braun. La pilule du lendemain sera bientôt gratuite pour toutes les femmes. Il était temps.
Oui, en fait, au planning familial, on défend un accès le plus facilité possible à toutes les méthodes de contraception, y compris la contraception d'urgence. Donc effectivement, pourquoi pas, ça avance et on ne va pas bouder notre plaisir, ça nous fait plaisir. Oui.
Il reste des progrès à faire en termes de contraception au planning familial, vous le dites, vous défendez notamment
oui.
Le développement de la contraception masculine. Elle est encore très marginale aujourd'hui ?
Elle est encore marginale, elle n'est pas encore suffisamment développée. Comme vous le savez, en fait, développer un médicament, développer un dispositif, ça prend beaucoup d'argent, ça prend du temps, ça prend un investissement public. Et c'est ce qu'on défend au planning familial, c'est-à-dire que pour le moment, en fait, la contraception masculine est le fait de quelques de poignées de personnes, dont des personnes du planning familial, qui militent, mettent beaucoup d'énergie, mais ont besoin d'un coup de pouce des instances publiques.
Coup de pouce qui n'est pas encore intervenu, donc.
Pas encore, on attend.
Autre avancée, le dépistage des IST, les infections sexuellement transmissibles, qui devient lui aussi ce dépistage gratuit et sans ordonnance jusqu'à l'âge de 26 ans. On a une recrudescence actuellement en France de ces maladies sexuellement transmissibles.
Oui, ça fait plusieurs années qu'on le constate, une recrudescence des chlamydia et de la gonorrhée. Et donc, effectivement, on ne pouvait pas très bien s'expliquer pourquoi les tests de dépistage, à part celui du VIH, étaient toujours payants, à part dans les centres de dépistage gratuits et anonymes qui sont quand même pas assez nombreux. Le dépistage gratuit jusqu'à 25 ans, pourquoi pas? Vous savez, nous, on tend à demander en fait la gratuité à tous les âges, puisque finalement, en fait, il n'y a pas de raison qu'on permette aux plus jeunes uniquement de se faire tester gratuitement.
Bien sûr. On rappelle que ces infections sexuellement transmissibles, elles présentent des risques, hein, comme notamment les risques d'infertilité, Marianne Neuzy.
Oui, tout à fait. C'est la principale raison pour laquelle les personnes sont infertiles. C'est parce qu'elles ont eu des maladies sexuellement transmissibles non traitées. Contrairement à l'idée qu'on se fait, ce n'est pas la contraception, ce n'est pas l'avortement qui cause l'infertilité, mais c'est bien les maladies non traitées.
D'où l'importance de se faire dépister. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un retard sur la prévention? Il y a un manque de sensibilisation en France à la santé sexuelle? Je ne sais pas, on parle aussi d'un relâchement peut-être dans la vigilance après le Covid et toutes ces périodes de confinement.
Oui, le ministre l'admet lui-même. En fait, la France ne met pas assez de moyens dans la prévention. Et donc, nous, on le répète inlassablement. On va peut-être finir par être entendu. La question de l'éducation, la question de la formation, la question de l'information également, ce sont des choses qui sont trop souvent peu investies. Nous, on a par exemple le numéro vert national qui reçoit 30 000 appels tous les ans sur les questions de contraception et d'avortement.
On a également rappelle ce numéro vert, Marianne Nozick.
Le 0800 08 11 11. Donc, typiquement, en fait, rapport peu, mal protégé, des questions, en fait, on peut faire ce numéro en heure de journée du lundi au samedi et on va avoir des réponses sur comment s'y prendre. On parle aussi de la formation parce qu'on a encore malheureusement trop souvent des professionnels de santé qui donnent des informations erronées aux personnes qui sont en recherche notamment de questions de contraception d'urgence. Et on parle de formation puisque l'éducation, puisque finalement l'éducation à la sexualité, c'est la base en fait et c'est là que les jeunes doivent apprendre justement qu'est-ce qui est possible comme méthode, qu'est-ce qui existe comme maladie, comment s'en protéger. Et on sait qu'en France, malgré une loi extrêmement ambitieuse, ça fait 20 ans qu'on le réclame, le planning familial, la mise en place de cette loi, 3 heures par année, à partir des plus petites classes, évidemment en adaptant le contenu, mais on imagine bien qu'un jeune qui commence à réfléchir à la question de sa sexualité, il a besoin de poser ces questions-là, notamment les questions de contraception et les questions de santé sexuelle en lien avec les IST.
Ouais, 3 séances d'éducation sexuelle par année dès la 6e, on voit, hein, il y a ce rapport frappant, hein, de l'inspection générale de l'éducation qui nous révèle qu'on en est très loin. Effectivement, on est très loin du compte. Il y a de lourdes carences de l'éducation sexuelle à l'école. Est-ce que c'est ça qui explique, selon vous, les dérives dans le comportement de certains adolescents?
On ne peut pas dériver si on ne sait pas, d'une part. C'est compliqué, en fait. Nous, on ne blâme pas les personnes. À qui peuvent-ils parler? À qui peuvent-elles parler? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur, une incompréhension? Parfois aussi, il faut le dire, hein, tous les rapports sexuels ne sont pas désirés. Donc, évidemment, il y a aussi avoir la possibilité de parler de ce qui s'est passé quand ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu. Et en fait, à partir du moment où on ne met pas en place des espaces sécurisés pour ouvrir la parole sur cette question-là, on ne peut pas demander aux jeunes de deviner tout seuls.
Vous parlez de rapports non désirés. Il y a la notion de consentement, bien sûr, hein, qui doit être au cœur de l'éducation sexuelle des jeunes.
Oui, bien sûr, la notion de consentement, la notion de plaisir, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose parce qu'on en a envie et non pas parce que c'est ce qu'on est censé faire, parce qu'on nous met la pression. Et malheureusement, comme on ne peut pas tout prévenir, en fait, il faut aussi pouvoir guérir. Et la contraception d'urgence, elle vient aussi là. En fait, on ne peut pas toujours tout faire parfaitement. La contraception d'urgence, c'est une méthode parmi d'autres. Il faut rappeler également que c'est une méthode de contraception qui est extrêmement sûre, contrairement à l'idée reçue qui voudrait que au bout de 3 fois, il vous arrive quelque chose. Typiquement, on parle de problèmes de fertilité, mais il y a toutes sortes de choses dans l'imaginaire populaire. Et en fait, si les personnes qui sont là pour répondre aux jeunes auxquels les jeunes vont parler ne savent pas répondre, ben en fait, ça perdure.
Merci. Merci Marianne Niozzi. Je rappelle que vous êtes la directrice du planning familial. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe Matin. 5h50, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Les Russes descendent dans les rues pour dire stop à Vladimir Poutine. Le président russe a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes hier, prêts à partir au combat en Ukraine. Conséquence, des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes. Au moins 1300 personnes ont été interpellées. Après ces déclarations, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont organisé en urgence cette nuit une réunion informelle. Résultat, de nouvelles sanctions sont en cours d'examen. L'aide militaire à l'Ukraine sera augmentée. Sur le front de l'épidémie de Covid, la 8e vague est là. C'est ce qu'assure Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, dans l'émission Complément d'enquête qui sera diffusée ce soir. Il appelle à reprendre les gestes barrières alors que le taux d'incidence a augmenté de 57% en une semaine. Et puis, du foot à suivre ce soir dans Europe 1 Sport. Les Bleus reçoivent l'Autriche au Stade de France en Ligue des Nations. Coup d'envoi 20h45.
Europe Matin.
6h10, très bon début de matinée sur Europe 1. Allez, un peu de lecture et une belle idée de sortie, c'est la prescription culture.
On ira voir la pièce de Boulevard, une idée géniale avec Marie Jiquel.
Le livre d'abord, bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Alors Nicolas, ce matin vous nous parlez d'un roman qui se taille une place dans la rentrée littéraire.
Oui, beaucoup de coups de cœur de libraire, notamment très important, ça publié par un petit mais génial éditeur, Les Forges de Vulcain. Le roman est signé Gilles Marchand, son titre Le soldat désaccordé.
Un soldat, ça se passe donc pendant la guerre.
Oui, la Grande, en 14. C'est un ancien combattant qui raconte. Il n'est pas parti la fleur au fusil, mais enfin il était d'accord pour faire son devoir et expliquer gentiment mais fermement aux Allemands que ça ne se fait pas trop d'envahir des pays neutres. Pas un va-t-en-guerre, mais pas non plus un pacifiste. Quand faut y aller, faut y aller. Pour résumer, le problème c'est qu'il perd une main au combat dès l'automne 14. C'est moins pratique pour tenir un fusil, alors il est relégué à l'arrière pour l'approvisionnement. Il fait ce qu'il peut pour aider.
Alors, on va le suivre comme cela pendant toute la Première Guerre mondiale.
On passe assez vite pour arriver dans les années 20. Il est de retour à la vie civile. Il n'a pas pu reprendre son travail de conducteur de tram. Alors il trouve un peu par hasard un boulot d'enquêteur. Après la guerre, il y a eu beaucoup d'enquêtes lancées, vous savez, pour retrouver un soldat ou en réhabiliter d'autres, fusillés pour l'exemple. Ça, ça lui plaît. En plus, ça marche bien. Il a fait la guerre, les soldats se confient plus volontiers. Et puis il a payé cher avec sa main en moins. Ça lui attire de la sympathie. Et un jour, en 1925, il rencontre Jeanne Joplin. Pour un travail, il s'agit de retrouver son fils, Émile, disparu depuis 1916. La dernière lettre reçue a été envoyée de Verdun.
Mais il n'est pas mort à Verdun, plutôt ?
Bah franchement, c'est exactement ce que se dit notre héros. Mais la mère du soldat Émile n'en démord pas. Il n'est pas mort, point. Elle le sent, c'est ça les mamans. Mais bon, vous pensez bien que ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de discours. Mais pour elle, il est vivant, elle n'a pas reçu d'autres lettres ou des témoignages d'anciens camarades. Son argument est imparable, il était trop jeune pour mourir. Voilà. Certes, bon, de toute façon, il accepte le travail, il a besoin de payer son loyer, ce sera dur de lui annoncer à la fin de l'enquête que son fils y est resté, mais bon, il active son réseau, il pose des questions à droite à gauche, il y va, il arpente et... il tombe non pas sur une histoire de guerre et de violence, mais sur une histoire d'amour et de poésie. Mmh. C'est écrit avec une fausse légèreté. C'est en fait très précis, documenté sans qu'on sente la poussière des archives.
Le soldat désaccordé de Gilles Marchand aux Forges de Vulcain. Merci beaucoup, Nicolas. Et bonjour, Marie Jiquel.
Et bonjour, Ombline. Et bonjour, Alexandre.
Bonjour, Marie. Alors, avec vous, on va parler stratégie ce matin. Tiens donc, les stratégies, en fait. Des maris jaloux, et oui, parce que toutes les pièces de boulevard commencent par un mari jaloux. Une idée géniale, voilà le nom de cette pièce qui triomphe en ce moment. Et on devine que cette idée de génie va tourner au fiasco.
Hein. Et oui, et vous vous demandez qu'est-ce que cette idée géniale? Un mari persuadé que sa femme Marion est tombée amoureuse d'un agent immobilier va trouver le sosie de cet agent et va l'inviter à dîner. Le but, que ce sosie joue les gros goujats et dégoûte sa femme du vrai agent immobilier.
Donc Marion arrive, elle vous dit bonjour et vous lui répondez en étant assez distant et hautain. Hein. Oui. Alors je joue le rôle de Marion.
Vous voulez la robe de Mary Poppins?
Non merci. Alors, comme ça vous avez pris mon mari en stop.
Va faire à bouffer, j'ai les crocs.
Sauf que cela va se corser lorsque le vrai agent immobilier et le frère jumeau du sosie s'invitent au dîner.
Oui,
et là, on est dans la pièce de boulevard.
Voilà, et comme vous comptez bien, on est donc à trois personnages qui se ressemblent, joués par le même comédien, Sébastien Castro. Vous imaginez donc la chorégraphie d'entrée et de sortie dans une ambiance de porte qui claque.
Il faut que ce soit au millimètre sur scène et en coulisses.
C'est-à-dire qu'il y a la mise en scène de ce qui se passe pour les spectateurs, puis il y a la mise en scène de ce qu'il y a derrière pour que tout fonctionne et que l'illusion fonctionne.
Vous êtes un peu schizophrène là ce soir.
Oui, bien sûr, il faut.
Avec ces trois personnages, comment vous faites ?
Au début des répétitions, je me perdais. C'est-à-dire que je jouais Jules. Et en plein milieu de la scène, je me disais, mais non, moi, je suis en train de faire l'agent immobilier. Et c'est à force que j'ai réussi à distinguer parfaitement les trois.
C'est la première fois que je vais au théâtre et que je sens les spectateurs excités, impatients, avant même le début d'une pièce.
Ah oui.
Et pour cause, ça virevolte, les répliques fusent, les quatre comédiens sont tous très justes. Pour le plus grand bonheur des spectateurs ravis à la sortie du Théâtre Michel à Paris, comme Agathe et Emma, qui ont la vingtaine, on va les entendre. Et les spectateurs attendent même de rencontrer Sébastien Castro, qui n'est pas seulement le comédien, mais qui est aussi l'auteur de cette comédie.
C'était super drôle, c'était trop bien.
C'est celle où j'ai vraiment le plus rigolé parmi toutes les pièces de théâtre que j'ai faites. Enfin, on se pose beaucoup de questions de combien est-ce qu'ils sont sur scène, c'est hyper mouvementé.
À bientôt.
Dis donc.
Oui, Marie.
Les spectateurs vous attendent à la sortie pour vous féliciter.
Pour nous féliciter et aussi pour nous poser plein de questions.
Les relous.
Non, pas du tout. La question, c'est comment vous faites pour être trois sur scène. Et on n'a pas le droit de répondre, on a signé une clause.
Alors, comment vous faites pour être trois sur scène?
Je ne dirai rien. Mais je ne vous dirai rien si ce n'est que ce sportif.
Est-ce que vous êtes le vrai Sébastien?
Là, tout de suite, oui.
Alors il ne nous dira rien, mais on ira le voir.
Il nous l'a dit un peu quand même.
On ira le voir sur la pièce, Sébastien Castro. Une idée géniale, cette pièce de boulevard qui est présentée donc au Théâtre Michel jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup Marie Jiquel. 5h56, excellent début de matinée sur Europe 1. Nous sommes le jeudi 22 septembre. Soyez les bienvenus si vous arrivez. Votre interview, Alexandre, ce sera à 6h40.
Oui, qui a dit qu'Internet avait tué le commerce traditionnel? Une étude met en lumière le grand succès des centres commerciaux auprès de vous, auprès des Français. Ils viennent y faire leurs achats, mais pas seulement, c'est ce que nous dira Christophe Noël de la Fédération des acteurs du commerce.
Le retour du pressing, quels articles à lire dans les quotidiens ce matin?
Et puis votre partition, Ombline.
Serge Lama et son premier amour, Liliane Benelli.
Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps.
De l'accident de voiture qui a coûté la vie à la pianiste en 1965, Serge Lama a gardé des séquelles, cette jambe gauche fuyante et cette posture qu'on lui connaît bien. La partition, ce sera dans 20 minutes.
Il est 6h sur Europe 1.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Et si c'était l'une des solutions face à la crise de l'énergie, le premier parc éolien offshore inauguré aujourd'hui au large de Saint-Nazaire, à la clé 20% de la production d'électricité du département. Les habitants, eux, regrettent un horizon gâché par cette installation XXL. En Russie, l'exode d'une population qui redoute la mobilisation générale. Hier, Vladimir Poutine a déjà fait appel à 300 000 réservistes à suivre le témoignage d'un réfugié politique installé en France. Et puis, à la fin de ce journal, on ira sur le tatami, initiation au judo pour des seniors d'Île-de-France. Objectif, apprendre à chuter sans se blesser. Le journal de 6h avec Romain Noquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Renforcer la souveraineté énergétique de la France, c'est l'objectif du premier parc éolien en mer inauguré aujourd'hui. 80 mâts blancs au large de Saint-Nazaire où est attendu Emmanuel Macron. En mer, les hélices doivent produire 20% de l'électricité du département. Mais sur terre, en revanche, les habitants de Basse-sur-Mer grimacent. Les éoliennes gâchent leur carte postale. C'est ce qu'ils ont expliqué à Charles Guyard pour Europe 1.
Ce qu'on aime, c'est l'immensité de l'océan, l'horizon avec la courbe de la Terre.
Le panorama. Voilà pourquoi Christian a succombé au charme de Basse-sur-Mer il y a plusieurs années. Et à l'époque de chez lui, la vue était bien dégagée.
Et là, on se retrouve avec quand même des poteaux. Hein.
Par temps clair, on ne voit désormais que cela. Une forêt de pylônes coiffée d'éoliennes. Le premier parc offshore français est certes à 12 km du rivage, mais les structures mesurant près de 200 mètres de haut, contrairement à ce qui avait été annoncé au début du projet, elles ne se fondent pas vraiment dans le paysage.
Prend vraiment plein les yeux. Quoi.
Bruno Schmitt est adjoint à l'urbanisme et à l'environnement.
La fameuse image où on tient une allumette et où on nous disait que l'impact visuel ne sera pas plus grand que ce qu'on voit au bout de son doigt, c'est pas ce qu'on nous avait annoncé. On aura toujours maintenant cette rangée d'éoliennes qui seront là.
Un préjudice qui mériterait donc, selon la mairie, une indemnité supérieure aux 277 000 euros annuels prévus par la chambre de compensation. Malgré cela, dans la commune la plus impactée du littoral, on sait aussi faire la part des choses. L'esthétique, c'est bien. Les énergies propres, c'est l'avenir.
Évidemment, c'est moche, hein, mais bon, c'est un mal pour un bien.
Basse-sur-Mer, Charles Guyard, Europe 1.
Basse-sur-Mer, où Emmanuel Macron doit aussi présenter les grandes lignes de son projet de loi sur les énergies renouvelables. Le texte sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Le gouvernement vise une cinquantaine de parcs éoliens offshore au large de nos côtes d'ici 2050.
Et l'éolien est aussi l'une des clés pour sortir de la dépendance au gaz et au pétrole russe.
Alors Moscou, justement, visé prochainement par de nouvelles sanctions de l'Union européenne. Réaction aux menaces de Vladimir Poutine, prêt à utiliser, je cite, tous les moyens pour protéger son pays, y compris le nucléaire. Le président russe a aussi fait appel hier aux 300 000 réservistes de l'armée.
Une annonce qui a soufflé un vent de panique avec les images d'un exode, celui de centaines de Russes qui quittent leur propre pays.
Oui, et cette histoire, c'est aussi celle de Vladimir Otchekin. Ce réfugié politique est arrivé en France en 2015. Il est recherché actuellement par le Kremlin après la publication sur son site internet de vidéos de viols et de tortures dans une prison russe. David Montagnier, il affirme avoir échappé à une tentative d'assassinat le mois dernier. Que s'est-il passé exactement ?
Eh bien, le 12 septembre dernier, Vladimir Otchekin est chez lui. Il s'apprête à dîner avec ses enfants lorsqu'il aperçoit une lumière rouge, celle d'un laser qui se déplace sur les murs de son appartement. Il se sent clairement visé et couche toute sa famille au sol.
J'ai vu dans le mur, dans le balcon, dans le mur, le point rouge de laser dans notre appartement. Ce bruit, deux fois, comme ça.
Pour Vladimir Otchekin, pas de doute, c'est un tueur envoyé par les services secrets russes. Alors, selon nos informations, il y a bien eu des détonations ce soir-là, à proximité de son domicile. Mais pour le parquet de Bayonne que nous avons joint, rien ne prouve à ce stade qu'il s'agisse d'une tentative d'assassinat. Alors, la justice étudie deux hypothèses. Il pourrait s'agir soit de simples pétards, soit de coups de feu, mais tirés en l'air. En tout cas, ces faits sont pris très au sérieux par la DGSI, le contre-espionnage français, qui est en contact très régulier depuis plusieurs mois avec l'opposant russe.
Le récit de David Montagnier.
Europe 1, 6h03. Quelle sera la méthode ? Le gouvernement maintient le flou sur sa réforme des retraites.
Oui, Elisabeth Borne poursuit aujourd'hui les consultations des groupes parlementaires. Marine Le Pen, chef de file du RN, a rendez-vous à Matignon aujourd'hui. La première ministre partira ensuite pour Guidel, la commune qui accueille les journées parlementaires du Modem. Arthur Delaborde.
Oui, officiellement, les discussions autour de François Bayrou seront centrées sur le changement climatique et la fiscalité, mais c'est bien la réforme des retraites qui sera dans toutes les têtes. Depuis plusieurs jours, le patron du Modem tire à boulet rouge sur la méthode privilégiée par l'exécutif. Pas question pour les députés de son groupe d'adopter un texte aussi important par un amendement au budget de la sécurité sociale et un recours au 49-3. La mise en garde résonne d'autant plus fort que François Bayrou vient d'être investi secrétaire général du Conseil national de la refondation, instance censée incarner la nouvelle méthode de concertation voulue par Emmanuel Macron. Preuve que les relations sont tendues samedi dernier alors qu'il était attendu au Carrousel du Louvre pour le meeting fondant le nouveau parti présidentiel Renaissance. La chaise de François Bayrou est restée vide. Dans ce contexte, il retrouvera donc Elisabeth Borne à Guidel ce soir pour tenter d'éviter une première crise sérieuse au sein de la majorité. La première ministre, que le chef du Modem n'avait pas épargné en juin dernier alors qu'elle venait d'arriver à Matignon, il avait suggéré la nomination d'une personnalité plus politique. Une certitude malgré tout compte tenu de son poids dans la majorité. Elisabeth Borne a reçu la consigne de traiter François Bayrou aux petits oignons.
Arthur Delaborde, 6h05 sur Europe 1. 100 000 hospitalisations, 10 000 décès par an. Voilà les conséquences des chutes de nos aînés. Un accident qui concerne un senior sur trois au-delà de 65 ans, avec des séquelles physiques, des traumatismes aussi, sauf si l'on apprend justement à bien chuter.
Mais oui, parce que ça s'apprend, et c'est grâce au judo, en particulier un art martial, la voie de la souplesse en japonais.
Oui, et c'est la méthode employée dans cette résidence pour seniors du Val de Marne, les résidents enfilent un kimono pour apprendre à tomber, oui mais pour leur bien, sur le tatami. Il y avait aussi Céline Géraud et son micro Europe 1.
Allez, on y va. Pour ceux qui ont besoin, on n'oublie pas de prendre sa canne.
12 mètres carrés de tatami posés sur le lino de la salle commune et à chaque séance, le même rituel.
La main avec laquelle j'écris ou je dessine, elle vient se mettre sur le revers du genou et l'autre main, elle vient se mettre sur la manche.
Pendant une heure, ces apprentis judokas oublieraient presque qu'ils sont équipés de prothèses et de bas de contention, comme une parenthèse enchantée pour Emma, 84 ans.
Ça fait bien, ça, la douleur ça diminue, on se sent un peu mieux.
Tapez sur le tapis avec vos mains. Très bien, je vous aide à vous relever.
Ah, ah bah oui, heureusement.
Et au fur et à mesure, les éclats de rire se mêlent aux grimaces, surtout quand il faut réapprendre à chuter. John, 72 ans.
Ici, il y a beaucoup de chutes. C'est une des raisons pour laquelle on est hospitalisé, c'est les chutes. Ça permet de voir si on progresse ou ça permet de voir où on en est.
Des progrès que constate aussi le professeur Xavier Guichard.
Il y a des vrais progrès sur le plan physique et tout, mais aussi au point de vue, je pense, sur la conscience de leur capacité. Et ça, je pense que c'est le plus important.
Merci tout le monde, à la semaine prochaine.
Et puis c'est déjà la fin du cours. Chacun repart, kimono sous le bras, un peu moins fourbu et un peu plus heureux.
Le reportage de Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Ce sera l'une des dernières répétitions avant la Coupe du Monde qui démarre dans 2 mois au Qatar. France-Autriche en Ligue des Nations, c'est ce soir à 20h45.
Ouais, les Bleus vont devoir se refaire une santé. Hein. Ça fait maintenant 4 matchs sans victoire.
Et oui, une équipe polluée par les affaires et affaiblie aussi par les blessures. 12 joueurs dans l'effectif et pas des moindres. Benzema, Pogba, Lloris, Kanté, aucun ne sera là ce soir. L'équipe d'Europe 1 Sport, elle sera bien au rendez-vous 20h, 23h pour suivre le match en intégralité.
Hécatombe de blessures également chez les basketteuses françaises qui débutent aujourd'hui leur Coupe du Monde.
Oui, match d'ouverture face au pays hôte, l'Australie, midi et demi, heure de Paris. Alors les Françaises avaient décroché la médaille de bronze au JO de Tokyo, mais là, Axel Metz, c'est loin d'être gagné. Hein.
Oui, dernier forfait en date, celui de la capitaine Marine Johannes, la principale arme offensive des Bleus, selon les propres mots du sélectionneur Jean-Aimé Toupane, s'est blessée à une cuisse lors d'un match d'entraînement. Les Bleus, qui se trouvent en plus dans une poule très compliquée avec notamment les Japonaises, vice-championnes olympiques, et les Australiennes qui jouent à domicile. Alors oui, la franco-américaine Gabby Williams sait que ce sera difficile.
Ouais, peut-être on peut faire une petite surprise ce tournoi, j'espère. Et en plus, je pense qu'on n'a pas beaucoup de pression. On va essayer de profiter et quand tu joues comme ça, les bonnes choses arrivent.
Jouer sans pression, donc, pour espérer aller le plus loin possible. Officiellement, les Bleus visent le podium. Mais pour cette équipe de France, décimée par les blessures, s'extirper de la poule de qualification serait déjà un petit exploit.
Axel May.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Noquet.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Il est 6h08 et vous restez avec nous sur Europe 1 à suivre le pressing.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
Et à 6h10 sur Europe 1, un petit passage en douceur par le pressing, comme chaque matin.
Oui, les articles à lire dans vos journaux. Et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu'avez-vous lu ce matin, Dimitri ?
Eh bien, c'est un article du Figaro ce matin qui a retenu mon attention. Et je vais commencer par une question, Pauline Alexandre. Est-ce que vous avez tenté, et je dis bien tenté, d'acheter une PlayStation 5 ces derniers temps ?
Oui, ça a pu m'arriver. Ouais. En dilettante, allez, on va dire. On sait bien que personne ne peut l'attendre.
Enfin, non,
elle est introuvable quasiment.
C'est ce que j'allais dire. Vous le savez, du coup, c'est très compliqué d'en trouver, voire même impossible. Hein. Depuis sa sortie fin 2020, la PlayStation 5 est introuvable en magasin puisque les stocks arrivant en boutique s'épuisent en quelques heures. Mmh. Mais j'ai peut-être une solution pour vous ce matin. Ah. Puisque l'État va mettre en vente des PlayStation 5. Vous avez bien entendu
l'État.
Une situation assez cocasse expliquée dans cet article du Figaro.
Assez surprenant, oui.
Oui, assez surprenant. Alors non, vous ne pourrez pas les retrouver dans votre centre commercial favori, mais bien dans une vente aux enchères de biens saisis par la justice. Parce que oui, on a souvent l'habitude d'entendre les enchères judiciaires de maisons, appartements ou encore terrains et parkings. Mais l'État se débarrasse aussi régulièrement d'objets de valeur saisis à des délinquants dans le cadre d'enquêtes. Ce sont donc ces PlayStation 5 tant prisés qui seront mis en vente les 4 et 5 octobre à Lyon. Alors je vous le dis d'avance,
il y aura du monde,
mais il n'y aura sûrement pas de bon coup à faire puisque le prix de départ est annoncé à 400€, soit 150€ de moins du prix initial mis à la vente dans les centres commerciaux. Mais qui sait, si vous voulez une PlayStation 5 au pied du sapin de Noël, il faudra peut-être passer par un adjugé vendu.
Donc ça peut être beaucoup plus cher, on est bien
ça
d'accord,
bon,
puisque ce
cher.
Sont des enchères.
Ça va flamber, on sait combien de consoles
Il y en a 3, je crois.
Ah, il y en a 3.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, donc là, c'est minime, mais bon.
Ça va être une sacrée bataille.
Une sacrée bataille.
C'est incroyable cette histoire autour de la PS5. C'est fou.
Bon, bah, voyez, si vous voulez tenter votre chance, ça se passe à Lyon.
Bah, d'accord, j'irai. 4 et 5, c'est ça ?
4 et 5 octobre.
Okay. Ombline.
Oui, j'ai choisi la petite histoire en France. Vous savez, c'est le petit bandeau situé tout à droite sur la double page région du quotidien aujourd'hui en France. La petite histoire de Zaza. Zaza le Nandou menacé
Zaza
de zoo.
Oui,
Zaza le Nandou menacé de zoo.
Qu'est-ce que c'est qu'un
Pas de zoo pour Zaza. Nous sommes. Ah, alors j'y viens. Nous sommes d'abord à Urte, mon cher Alexandre. Petite bourgade champêtre située dans les Pyrénées-Atlantiques. Les habitants du village, petits et grands, ne sont plus étonnés de voir gambader au milieu d'un pré Zaza. Un nandou, donc. C'est une sorte de petite autruche, un oiseau originaire d'Amérique du Sud, incapable de voler. Zaza.
Une autruche.
Oui, c'est une sorte d'autruche, ouais.
Bon.
C'est à peu près la même espèce. C'est un peu plus petit.
Un peu plus petit. Bon.
Mais ça, franchement, ça ressemble, hein. Le nandou. Zaza appartient à Jean, c'est un agriculteur retraité. Ce sont ses voisins, il y a 20 ans, qui lui ont confié l'animal, âgé alors de 2 ans. Votre calcul est bon, Alexandre. Zaza a bel et bien 22 ans.
J'ai dit ça, moi.
Ouais. Et mène une vie paisible au cœur du Pays Basque, dans un champ verdoyant et clôturé avec en guise de colocataire un taureau de combat.
Bon.
C'est pour la petite note. Cette jolie ménagerie, il se trouve quand même que cette jolie ménagerie ne fait pas de vagues. Bien au contraire, c'est l'attraction du coin et Jean passe matin et soir pour nourrir Zaza. Le taureau se débrouille tout seul avec l'herbe. Tout allait donc pour le mieux jusqu'à ce que cette menace de saisie. Parce que oui, l'affaire s'aggrave, hein, vous l'avez deviné. Pour l'Office français de la biodiversité, Zaza, le nandou, est un animal sauvage, potentiellement agressif et donc dangereux. Jean posséderait ce nandou sans autorisation. Sa place est dans un zoo, loin de Urte, en plus, en Charente-Maritime. Imaginez le désarroi de Jean qui vit avec Zaza depuis 20 ans, on l'a dit, son oiseau placide et qui fait la joie des enfants lorsqu'il longe le champ.
La clôture,
mais bien sûr, l'espérance de vie d'un nandou étant de 25 ans. Zaza en a 22, oui, pourquoi ne laisse-t-on pas finir sa vie tranquille, elle est là où elle est finalement, là où cet oiseau a toujours vécu. C'est l'incompréhension dans le village, Jean va donc pouvoir compter sur le soutien de ses voisins aujourd'hui au tribunal de Bayonne, qui décidera du sort de Zaza le nandou. Pas de zoo pour Zaza, c'est à lire dans Aujourd'hui en France.
C'est une phrase de fiction.
Soutien à Zaza,
et franchement c'est une très très belle histoire. On termine ce tour de table avec vous, Alexandre.
Oui, alors moi, je vais m'avancer un petit peu, hein, chers auditeurs. Vous qui êtes à peine à l'heure du petit déjeuner ce matin, bon appétit d'ailleurs. 6h15, bah tant pis, 6h15, on va quand même faire un point apéro. Après tout, c'est déjà jeudi. Hein. Mais oui.
Non, c'est l'apéro quelque part dans le monde. C'est l'heure de l'apéro quelque part dans le monde.
Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il existe, j'ai découvert ça ce matin dans le Huffington Post, il existe une nouvelle tendance apéro en cette rentrée de septembre. Alors, si vous pensiez partager une planche ce soir avec vos collègues ou vos amis, une planche de fromage ou de charcuterie, eh bien, oubliez, ou alors sachez au moins qu'il y a maintenant une autre option qui s'offre à vous, la planche de beurre. Oui, alors, je ne vous avais pas promis que ça serait léger. Hein. La planche de beurre, nous apprend le Huffington Post. Non, c'est la nouvelle tendance food, en tout cas sur TikTok. Alors, on voit le réseau social qui étale des vidéos de beurre, qu'on étale aussi. À l'heure de l'apéro, ça se présente toujours de la même façon. C'est sur une planche à découper et on peut l'assaisonner, lit-on, comme on veut. Alors certains rajoutent des herbes, parfois de l'huile, comme ça c'est encore plus léger.
De l'huile sur du beurre, voilà. Mais quelle idée.
Pour d'autres, ça va être de la confiture, du sirop d'érable, pourquoi pas de la truffe. Alors certains se lâchent, ils mettent carrément de l'ail. Bon, ça dépend de vos projets pour la soirée. D'où elle vient cette nouvelle lubie? Eh bien, il semblerait que la tendance ait été lancée il y a quelques mois par un chef londonien. Tiens donc, Thomas Straker de son nom. Allez voir en tout cas ces vidéos complètement beurrées sur TikTok. Bon, à moins de vouloir s'administrer un choc calorique, ça reste quand même, vous l'aurez compris, à consommer avec modération.
Oui, toujours avec de l'ail.
La planche de beurre à l'apéro.
La planche de beurre à l'apéro, et bon, on rentrera ce week-end, Alexandre.
Pas,
voilà.
Pourquoi pas.
Merci beaucoup, c'était le Pressing. Vous restez avec nous à suivre, c'est la partition. Bon réveil.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Votre matinale info sur Europe 1.
Carrefour. Si je vous dis gel douche.
Ah, quand tu prends l'eau glacée d'un coup, là. Ouah.
La détente.
La, 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 la.
Et si je vous dis que c'est le mois bingo.
Et qu'avec 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, le lot de deux gels douche Le Petit Marseillais revient à 2,37€ seulement.
Bah, c'est frais.
Ouais, comme une douche.
Et c'est jusqu'au 2 octobre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour.
On a tous droit au meilleur.
Prix payé en caisse 7,90€, 2 x 650ml, soit 6,08€ le litre, différents parfums, détails sur carrefour.fr.
Cette semaine dans Marianne, le baromètre annuel des déserts médicaux. Combien de temps pour obtenir un rendez-vous en dermatologie, en pédiatrie? À combien de kilomètres de chez vous? Marianne dresse le diagnostic et explore les traitements de choc pour le droit à la santé des Français.
Gémeaux, le prêt à vivre.
Si vous êtes prêt à laisser un peu souffler celui que vous portez tous les jours depuis un an, je parle de votre jean fétiche évidemment, ou prêt à suggérer à votre ado de lâcher son jean troué, ouah, jusqu'au tibia sérieusement Théo? Alors vous êtes prêt à profiter d'une offre exceptionnelle chez Gémeaux. En ce moment, pour un jean acheté, Gémeaux vous offre moins 50% sur le deuxième. Et c'est toute la famille qui va pouvoir en profiter. Offre valable du 21 septembre au 4 octobre sur une sélection de jeans et sur le moins cher des deux. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr.
Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus.
Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr.
Pensez à covoiturer. Europe Matin.
6h19.
Le journal permanent, Albane Leprince.
Les Russes protestent contre les déclarations de Vladimir Poutine. Hier, il a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes prêts à partir au combat en Ukraine. Conséquence, manifestation dans une trentaine de villes. Hier, vol au départ de Moscou complet pour fuir le pays. D'autres qui ne peuvent pas partir se mutilent. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron a pris la parole hier à la tribune des Nations Unies, hier pour dénoncer une guerre qui n'a pas de sens. Le président appelle à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine. Toujours aux Nations Unies, Joe Biden s'est dit solidaire hier des femmes courageuses d'Iran. Déclaration alors qu'au moins 8 personnes sont mortes dans les manifestations qui secouent le pays depuis ce week-end après la mort d'une jeune femme de 22 ans arrêtée car une mèche de cheveux dépassait de son voile.
Très bon réveil avec Europe 1. Votre partition, Omblin, vous la consacrez ce matin à Serge Lama qui a annoncé il y a quelques jours qu'il mettait fin à sa carrière. Mais avant de tirer sa révérence, eh bien Serge Lama va présenter un tout dernier album. Ce sera le 7 octobre. Album baptisé tout simplement Aimer.
Oui, et c'est justement une histoire d'amour que j'ai envie de vous raconter ce matin. Une histoire tragique aussi entre Serge Lama et Liliane Benelli, sa fiancée tuée dans un accident de voiture en août 1965. Il confiait l'an dernier à Michel Drucker dans Vivement dit Dimanche sur France 2, ça a été l'amour brisé, le premier amour, son premier grand deuil.
Avant la vedette Serge Lama, il y a le jeune homme Serge Chauvier, un tout jeune bordelais, et qui débarque à Paris pour devenir chanteur.
Le 11 février 1964, le jour de ses 21 ans, il passe une audition à l'Écluse, située quai des Grands Augustins. Ce jour-là, la chanteuse Barbara, principale sociétaire du cabaret, est présente avec à ses côtés sa pianiste Liliane Benelli.
Oui, ça fait déjà plusieurs années que Liliane Benelli et Barbara se produisent ensemble.
Oui, sur la scène de l'Écluse. Et elles sont devenues très proches, la dame en noir et la virtuose au visage d'ange, aux cheveux blond et long lorsqu'elles se rencontrent. 3 ans plus tôt, Liliane Benelli est une ancienne élève du conservatoire qui s'est détournée du classique, encouragée par le compositeur Georges Delerue. Quand Barbara apprendra la mort de son amie, anéantie, elle composera une petite cantate en quelques jours.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi.
Une petite cantate que nous jouions autrefois seuls. Je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa.
Une petite cantate chantée par Serge Lama avec une ancienne de l'Écluse, elle aussi Marie-Paul Bell.
Et après cette audition à l'Écluse, février 1964, Serge Lama est donc à peine majeur. Mm-hmm. Et il va tomber amoureux de cette pianiste de 8 ans son aînée.
Quelques mois plus tard, le chanteur Liliane Benelli parle déjà de mariage ensemble. Ils partent en tournée en première partie de Marcel Amont le 12 août 1965 sur la Nationale 7, bordée de platanes à la sortie d'Aix-en-Provence. La Peugeot 404 blanche du couple quitte la route. La pianiste, mais aussi le conducteur de la voiture, Jean-Claude Grenessia, le frère d'Enrico Macias. Tous les deux sont tués dans l'accident. Serge Lama est vivant, mais gravement blessé.
Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes.
Alors on raconte que Marcel Amont, lorsqu'il a appris la nouvelle, s'est précipité à l'hôpital pour empêcher qu'on pratique une trachéotomie sur son protégé.
Pour sauver ses cordes vocales, Serge Lama se relève de l'accident, le cœur et le corps en miettes. Il sort son premier album en 1968, D'aventure en aventure, comme la chanson écrite pour Liliane, devenue un classique.
D'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore. Mais
d'aventure en aventure, dédié à Liliane Benelli, Serge Lama sur Europe 1, et rendez-vous avec son ultime album Aimé le 7 octobre.
Merci Ombline, 6h25, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, très bon réveil à tous. Un rendez-vous à suivre à 6h40, les centres commerciaux, ils résistent bien aux grandes plateformes du e-commerce. Vous continuez d'aller dans les magasins physiques. Christophe Noël de la Fédération des acteurs du commerce nous dévoilera ses derniers chiffres et les nouvelles attentes des consommateurs.
Et puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida, une application pour lutter contre les accidents entre les automobilistes et les vélos sur la route. À tout de suite.
Europe Matin,
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Non à la guerre, une quarantaine de manifestations en Russie hier soir contre la guerre et contre Poutine. Un millier de personnes arrêtées, la répression après l'annonce par Vladimir Poutine de la mobilisation de 300 000 réservistes. Beaucoup de jeunes Russes tentent déjà de fuir le pays. Une minute d'applaudissements nourrie pour Volodymyr Zelensky devant l'Assemblée Générale des Nations Unies cette nuit. L'Europe promet de nouvelles sanctions. Explication dans un instant. Emmanuel Macron veut booster l'éolien. Le président à Saint-Nazaire aujourd'hui pour inaugurer un parc éolien en mer avec un enjeu, l'indépendance énergétique de la France à l'heure de la guerre en Ukraine. Le journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Je ne veux pas mourir pour Poutine, ce n'est pas ma guerre. Depuis que le maître du Kremlin a décrété hier la mobilisation partielle de 300 000 réservistes, c'est le grand exode. Des milliers de Russes tentent de fuir vers la Turquie ou tout autre pays sans visa. Tous les avions sont pleins, les prix des billets au départ de Moscou explosent. Hier, plus de 1000 personnes ont été interpellées lors de manifestations improvisées dans plusieurs villes russes.
L'escalade militaire de Vladimir Poutine est de plus en plus contesté dans son pays et plus que jamais condamné à l'international, notamment pour ses menaces nucléaires.
Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Vous suivez la 77e Assemblée Générale de l'ONU. Cette nuit, le président ukrainien qui s'est exprimé en visio a été ovationné pendant une longue minute. Volodymyr Zelensky a exigé un juste châtiment contre la Russie et la mise en place d'un tribunal spécial. Avant cela, hier, c'est le président américain qui a pris la parole. Joe Biden a répondu avec fermeté aux déclarations agressives de Vladimir Poutine, Alexis.
Oui, Joe Biden a dénoncé le mépris irresponsable du maître du Kremlin sur le sujet des armes de destruction massive. Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée, a martelé le président américain. Du côté de la Maison-Blanche, on dit prendre très au sérieux les menaces de Vladimir Poutine, mais pour le moment, aucun changement stratégique russe n'a été constaté. Pour Washington, ces déclarations illustrent surtout les difficultés de l'armée russe sur le terrain et l'isolement du président Poutine sur la scène internationale. Côté européen, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis cette nuit en urgence à New York. Ils condamnent avec la plus grande fermeté la dernière escalade russe. Avec l'annonce d'une mobilisation partielle et de référendums illégaux dans les régions occupées, la Russie fait le choix de la confrontation, disent les Européens. L'UE va continuer son aide militaire à l'Ukraine et examine de nouvelles sanctions vis-à-vis de Moscou.
Alexis Guilleux.
Liz Truss, la première ministre britannique, l'a promis hier. Le Royaume-Uni maintiendra et augmentera son aide militaire à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. C'est clair, l'invasion russe a remis toute l'Europe sur le chemin de l'armement.
Et elle a réveillé certaines ambitions militaires. En Allemagne, par exemple, le pays a débloqué 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Une montée en puissance qui inquiète la France. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, se rend d'ailleurs aujourd'hui à Berlin pour s'entretenir avec son homologue allemand, William Molinier.
Oui, et c'est l'ensemble de l'équilibre franco-allemand qui est bouleversé avec cet objectif de l'armée allemande, devenir la première armée conventionnelle d'Europe. En fait, les regards se portent surtout outre-Atlantique. Une des craintes est que les Américains investissent massivement le champ allemand et que cette première armée européenne ne devienne en réalité américaine, même si elle sera sans doute bien équipée. On ne voit pas comment les Allemands vont pouvoir aguerrir leurs soldats en si peu de temps. C'est en tout cas ce qu'on relativise dans les états-majors français. Reste que plusieurs sources au sein des armées s'inquiètent de voir revenir sur le théâtre européen une armée allemande très forte. On ne peut pas dire que ça nous ait réussi au siècle dernier, ironise-t-on, même si depuis, la France s'est dotée d'une assurance vie avec la dissuasion nucléaire.
William Molinier.
Après New York, c'est Saint-Nazaire qui attend aujourd'hui le président de la République.
Oui, en pleine crise énergétique, le chef de l'État veut donner un coup d'accélérateur à l'éolien en mer. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Baptiste, on se souvient qu'en février dernier à Belfort, Emmanuel Macron avait fixé un objectif, 50 parcs éoliens offshore d'ici 2050. Où en est-on aujourd'hui ?
Elle avance, mais elle avance doucement. Aujourd'hui, 4 parcs d'éoliennes en mer sont en chantier, 71 éoliennes au large de Fécamp, 64 dans la mer du Calvados, 62 au large de Saint-Brieuc et donc les 80 au large de Saint-Nazaire. C'est le premier parc de la sorte à voir le jour en France. 2 éoliennes sur 4 y sont déjà opérationnelles. La mise en service complète est prévue d'ici la fin de cette année. Le parc pourra alors fournir en électricité 5000 foyers par an. Par ailleurs, 8 parcs d'éoliennes en mer sont toujours à l'état de projet.
Mais alors pourquoi ça avance si lentement, Baptiste ?
Eh bien, prenez le projet des 46 éoliennes à Dunkerque. Une plainte a été déposée par la Belgique qui les considère trop proches de ses côtes. Autre exemple, le projet de 62 éoliennes à Dieppe. 3 recours ont déjà été déposés en justice par les associations. Ce sont ces procédures qui ralentissent les projets, comme l'explique Jacques Percebois, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie.
Ce qui retarde les projets, notamment d'éoliens, c'est les actions en justice, parce qu'il faut répondre. Donc, ce que souhaite le gouvernement, c'est un petit peu limiter les délais pour rester en justice. Donc ça peut aller un peu plus vite.
Aller un peu plus vite pour rattraper une partie du retard, car aujourd'hui, l'éolien ne produit que 8% de notre électricité. Avec l'éolien en mer 2 fois plus productif que sur Terre, la France veut se rapprocher des modèles britanniques, danois ou allemands. Là-bas, plus de 20% de l'électricité est produite par le vent.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Football, c'est une équipe de France décimée qui affronte ce soir l'Autriche en Ligue des Nations.
Un coup d'envoi 20h45 à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Les Bleus amputés de plusieurs de leurs meilleurs joueurs, blessés à 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Un mondial qui se prépare bien sûr dans les vestiaires, mais aussi dans les tribunes. Alexandre Omblin, vous avez déjà votre vouvuzela, vos écharpes tricolores.
On a le maillot.
C'est loin, il va falloir la retrouver dans les cartons.
Ouais, mais il faut être prêt. En tout cas, notre correspondant en Chine, Sébastien Lebelzik, s'est rendu dans le plus grand marché de gros de la planète, c'est à Yiwu, dans l'est du pays. Il y a des ballons, des fanions, tout y est, prêt à inonder les commerces du monde entier. Reportage.
Plus de 80 000 boutiques sont installées dans ce marché, grand comme 800 terrains de football, qui se trouve au sud de Shanghai. Yiwu est surnommé le supermarché de la planète. Le français Mario Chevalier y vit depuis 14 ans. Il exporte tous ses produits vers l'Europe.
On y trouve de tout. Ça peut aller des casseroles aux accessoires de piscine, porte-clés, tout. Les fournisseurs sont très réactifs. Dès qu'il y a un produit tendance, comme là on arrive en Coupe du Monde, ils se mettent tous à faire le produit qui marche. En fait. Il y a des chapeaux, des écharpes. Des drapeaux.
Des ballons à 1,50€, des porte-clés Qatar 2022 à 10 centimes. Si les prix sont aussi bas, c'est que les vendeurs, pour la plupart, utilisent sans autorisation les logos de la FIFA et du prochain mondial. Gurongsha fabrique des accessoires pour les supporters, maillots, écharpes, fanions et les célèbres vuvuzela.
Certains clients, comme au Brésil, ont commandé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de produits pour leurs supporters.
Depuis le début de l'année, ce sont plus de 30 milliards d'euros de marchandises qui ont été exportées de Yiwu. Si la Chine n'est pas qualifiée pour le mondial au Qatar, elle a déjà décroché le titre de premier vendeur. À Yiwu, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Un mot de basket. Pour terminer, c'est le début de la Coupe du Monde féminine, aujourd'hui à Sydney, en Australie.
Entrée des Bleus en lice à midi et demi, heure de Paris, face justement à l'Australie qui joue à domicile. Les Françaises, médaillées de bronze au JO de Tokyo, partent avec plusieurs blessés, dont la capitaine de l'équipe. Elles vont devoir pourtant affronter un gros morceau, puisqu'elles ont face à elles bientôt les Japonaises, vice-championnes olympiques. On leur souhaite bon courage.
Bon courage. Merci Fanny Marceau, 6h37 sur Europe 1. Qui a dit qu'Internet avait tué les commerces traditionnels? Les magasins physiques résistent bien mieux qu'on ne pourrait le croire. Christophe Noël, l'un de leurs porte-parole, viendra nous le dire dans un instant.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Non, Internet n'a pas tué le commerce physique. Malgré le boom du e-commerce, les Français vont toujours faire leurs courses dans les magasins, en particulier dans les centres commerciaux. C'est le résultat d'une enquête OpinionWay. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires.
Bonjour Christophe Noël.
Bonjour.
Alors, elle est surprenante, hein, cette étude que vous publiez avec OpinionWay. On a l'impression qu'elle vient tordre le cou à tout ce qu'on a pu entendre, en particulier depuis la crise de Covid, hein, sur le déclin du commerce traditionnel. En fait, ce n'est pas le cas du tout, le déclin du commerce traditionnel.
À l'évidence, les gens ont trouvé pendant le confinement beaucoup de praticité dans les achats qu'ils ont pu faire sur Internet. Mais ils se sont bien rendus compte d'autre chose, c'est que, en revanche, pour le vivre ensemble, pour l'agrément du quotidien, pour l'animation de nos cités, bah, ça manquait considérablement, le commerce. Et donc, quand ils ont pu retourner dans les magasins, ils l'ont fait avec beaucoup de plaisir et massivement. Donc c'est vrai qu'on a vu une reprise très forte du commerce physique. Et surtout, ce que nous dit ce sondage, c'est que les Français, ils prennent du plaisir, ils sont attachés et voient dans le commerce physique des vertus qu'ils ne prêtent pas forcément au commerce Internet.
Alors très logiquement, vous avez beaucoup de chiffres, hein, on va presque tous au supermarché ou dans les hyper, hein, 96% des répondants, c'est leur cas. Mais les Français continuent aussi de fréquenter les centres commerciaux, les magasins de centre-ville, quasiment 9 Français sur 10. Hein, c'est quand même des chiffres très surprenants.
Et c'est vrai qu'on a eu parfois tendance à vouloir opposer les différentes formes de physique, le commerce de périphérie au commerce de centre-ville. En réalité, les Français vont partout massivement. Ce qui veut dire qu'il y a de la complémentarité. Et c'est vrai du reste aussi entre le commerce physique et le commerce Internet. Personne ne veut prétendre que le commerce Internet n'a pas quelques vertus et une praticité évidemment très forte. Mais là, tout le monde va partout.
Oui, il y a ce chiffre frappant également dans votre étude. Hein. Les jeunes, particulièrement, continuent de fréquenter les centres commerciaux. On pourrait les croire, eux, particulièrement accros uniquement aux achats sur Internet. Eh bien là encore, ce n'est pas le cas du tout.
Non, et les jeunes sont certainement les plus attachés. Mais je voudrais mettre ça en perspective avec la question de l'isolement des jeunes, et en particulier pendant ces années de Covid. Je suis frappé ces dernières années du nombre d'articles qui nous alertent sur la détresse, la solitude des jeunes. Et en ça, c'est vrai que le commerce joue un rôle particulièrement important dans la sociabilité des jeunes. Et donc, eux s'y retrouvent. Et d'ailleurs, c'est les plus nombreux à déclarer de l'attachement, par exemple, pour les centres commerciaux. À 70% d'entre eux, ils le disent, hein, ils sont attachés à un ou plusieurs centres commerciaux. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu d'émancipation pour les jeunes. Donc, c'est une demi-surprise, finalement.
C'est ce que vient révéler votre enquête, et c'est ce qui est intéressant. Les 18-24 ans, hein, 70% d'entre eux disent leur attachement aux centres commerciaux. C'est pas d'abord pour aller y faire leurs achats, en l'occurrence, c'est le lieu pour retrouver des copains, en fait.
Alors, plus de 50% des jeunes gens nous disent effectivement qu'ils y retrouvent des amis régulièrement. Donc oui, un lieu de sociabilité et aussi de rencontre, ce qui est pour le coup plutôt une surprise.
Bon, pour l'avenir, quand le pouvoir d'achat va augmenter, hein, quand on va prendre de l'âge après 18-24 ans, j'imagine que c'est un moyen très malin pour vous de fidéliser votre clientèle.
Bah, on peut espérer que si les jeunes aujourd'hui ont de l'attachement, ça puisse conforter évidemment leur fidélité au commerce physique dans le futur.
De manière générale, 3 répondants sur 4, hein, 75% dans votre étude, disent privilégier les achats en magasin plutôt que sur Internet. Il y a plusieurs explications, Christophe Noël. D'abord, la sécurité du paiement, de la livraison, malgré tout, malgré toutes les garanties qui sont offertes aujourd'hui, je pense en particulier aux géants du cybercommerce, les acheteurs, enfin les clients, sont encore attachés à cette sensation de sécurité du paiement, du service après-vente, de la livraison quand on va dans des magasins physiques.
Vous connaissez l'expression, avoir pignon sur rue. Et là, à l'évidence, c'est toujours rassurant dans la démarche d'achat. Et puis je crois que les gens entendent ou ont subi aussi quelques avanies parfois dans leur expérience d'achat sur Internet. Bah, certainement, quand on va dans un magasin, on sait ce qu'on achète, on sait avec quoi on repart et à quel prix. Et si on a un problème, c'est plus facile de ramener son produit que de le renvoyer par la poste.
La traçabilité des produits également.
Ça aussi, c'est soulevé par nos concitoyens à 71% d'entre eux. Donc oui, à l'évidence, ça leur apporte des garanties. Et puis aussi, ils le disent, plus de plaisir pour les trois quarts d'entre eux. Et une tendance aussi tout à fait étonnante, c'est que pour les plus jeunes qui sont peut-être, on pourrait le penser, les plus connectés et qui pourraient avoir une préférence pour Internet, en réalité, pas du tout. Les moins de 24 ans, ils sont tout autant que les autres à vouloir privilégier les achats physiques à 75% d'entre eux.
Également. L'impact environnemental également est soulevé par les répondants. C'est moins impactant, enfin c'est plus vert d'aller faire ses courses dans un magasin physique que de commander sur Internet, j'imagine, par rapport au mode de livraison.
C'est perçu comme tel aussi. Mais je crois que tout le monde s'en rend bien compte, qu'on vive en milieu urbain ou en milieu périurbain ou rural. Évidemment, la livraison jusqu'au domicile des gens entraîne un nombre de besoins de mobilité tout à fait considérable et les gens le perçoivent bien. Et je ne parle même pas des emballages, de la question des retours et ainsi de suite.
Ouais, vous parliez du lien social hein, qui est particulièrement plébiscité par les jeunes. Les Français, en général, plébiscitent les nouveaux usages des centres commerciaux. On n'y va plus seulement pour faire ses courses, on y cherche une offre de loisirs, on y cherche une offre culturelle. Il y a même des espaces de coworking, Christophe Noël, désormais.
Alors, il n'y en a pas beaucoup des espaces de coworking, je vais être franc avec vous, mais c'est vrai que l'idée, c'était de faire un petit peu de prospective aussi avec cette étude et donc de demander aux gens ce qu'ils espéraient trouver demain dans les centres commerciaux. Et alors, là aussi, curieusement, plus on est jeune, entre guillemets, et plus il y a d'appétence pour une variété de fonctions très grande. Et notamment, vous venez de le citer, la possibilité de pouvoir travailler, y compris dans les centres commerciaux, qui est plébiscité par les jeunes.
Bon, les centres commerciaux résistent bien à Internet. Votre étude, elle soulève quand même une autre question. Est-ce que les centres-villes vont résister aux centres commerciaux? Est-ce que ce tout-en-un que vous proposez, achat, restauration, loisirs, est-ce que ce n'est pas la mort programmée des centres-villes? On vous a déjà posé cette question sans doute, mais elle revient.
Là aussi, je crois que les premiers chiffres qu'on commentait tout à l'heure, qui montrent bien que tout le monde fréquente l'ensemble des lieux de commerce, voilà, permet d'éluder un peu cette question de l'opposition entre les différents formats. Il faut se rappeler là aussi la répartition de la population française, où vivent les gens. Ce qui a alimenté la croissance démographique française, c'est celle du périurbain, c'est celle des banlieues depuis 30 ou 40 ans. Donc les gens vont aussi près de là où ils vivent. En réalité, la périphérie, c'est souvent la proximité de certains. Donc, je ne suis pas certain qu'il faille opposer les différentes formes de commerce. Et d'ailleurs, les Français nous le disent, hein, ils ont eu beaucoup de plaisir, encore plus à retrouver les commerces de centre-ville que les commerces de périphérie ou que les commerces de centres commerciaux. Donc, l'attachement, il est très fort. Et d'ailleurs, j'ai une petite pensée sans doute pour certains de vos auditeurs. Ce que les Français ont préféré retrouver, c'est les marchés et les commerces de bouche à 85% d'entre eux.
Merci Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, ce matin sur Europe 1.
C'était l'interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Europe 1, il est 6h49.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anissé.
Bonjour à tous.
Votre innovation du jour est une idée surprenante pour lutter contre les accidents entre automobilistes et vélos. On pourrait s'appuyer sur une application de type tous anti-Covid.
Oui, et c'est plutôt une bonne idée, vous allez voir. Il s'agit d'une application qui va alerter l'automobiliste qu'un vélo, qu'un piéton ou un scooter qu'il n'aurait pas vu se trouve à proximité. Alors jusqu'ici, c'était une option très chère qui était réservée aux voitures haut de gamme avec des radars et des caméras. Eh bien, à la place, ce que propose cette application, c'est d'utiliser la technologie Bluetooth. Et l'avantage, c'est qu'on la trouve déjà dans la plupart des voitures et surtout dans la totalité des téléphones que possèdent les piétons et les cyclistes. Du coup, ça va fonctionner un peu comme l'application Tous Anti-Covid. Vous savez, quand on voulait savoir si on avait croisé quelqu'un testé positif, eh bien, cela, c'est le même principe. Grâce au Bluetooth, la voiture saura s'il y a des piétons et des vélos autour d'elle et elle préviendra le conducteur. C'est beaucoup moins cher que des radars ou des caméras et ça rend le dispositif utilisable sur la majorité des véhicules.
Donc les deux applications, finalement, chaque appareil va communiquer avec l'autre.
Pour se voir.
voir. Cela veut dire que tous les cyclistes et tous les piétons devront avoir l'application, forcément. Et ils devront aussi activer le Bluetooth.
Ben oui, l'idée, c'est de considérer cette application comme un moyen supplémentaire de devenir encore plus visible des automobilistes, exactement comme un feu arrière la nuit ou un gilet réfléchissant. Et c'est important parce qu'il y a de plus en plus de 4x4, de plus en plus de SUV. Les voitures sont de plus en plus grosses. Et en plus, elles offrent souvent moins de visibilité, ce qui augmente les risques de masquer, de cacher un piéton ou un vélo. Mais vous avez raison, ça ne marchera que si tout le monde installe l'application.
Oui. Alors, vous parlez de risque, Anicet. On peut se dire que ça peut devenir aussi une nouvelle façon de nous suivre à la trace.
Bah oui, c'est vrai. C'est une des raisons de l'échec de l'application Tous Anti-Covid. On ne voulait pas être espionné. Oui. Mais je me dis que ce système, qui est pour l'instant proposé uniquement par Ford, pourrait être standardisé, généralisé à tous les constructeurs, à tous les téléphones, avec des mécanismes qui garantissent l'anonymat. Alors, ça ne va pas l'empêcher d'un coup les accidents de vélo et de piétons, mais ça peut devenir un moyen bon marché d'alerter les conducteurs qui sont souvent un petit peu trop distraits.
Merci beaucoup, Anicet Mbida. C'était l'innovation.
Europe Matin.
6h51, bon réveil avec Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Organisation en urgence cette nuit d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à New York. Suite à l'annonce de la mobilisation de 300 000 réservistes par Vladimir Poutine et la menace de l'arme nucléaire, ils se sont accordés sur l'examen de nouvelles sanctions et une augmentation de l'aide à l'Ukraine. Plus 57% en une semaine, le taux d'incidence lié au Covid explose ces 7 derniers jours et Jérôme Salomon le confirme. La 8e vague est là, déclaration dans l'émission complément d'enquête qui sera diffusée ce soir. Le directeur général de la Santé appelle à reprendre les gestes barrières. Du sport, l'équipe féminine de France de basket entame son mondial. Les Bleus affrontent l'Australie, pays hôte, début du match à 12h30.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
La revue de presse internationale nous amène d'abord en Algérie avec notre correspondant Nour Chahine. Bonjour.
Bonjour.
Les unes de la presse algérienne ce jeudi.
Eh bien, en Algérie, on s'interroge sur l'été torride qu'ont connu plusieurs régions du pays cette année. Les épisodes caniculaires se multiplient et les nombreux incendies durant les mois de juillet et d'août ont aggravé la situation d'après El Watan. Le quotidien consacre d'ailleurs un reportage à ces changements climatiques et donne la parole à des touristes venus de France pour les vacances. « Ce temps est déprimant. Cette lumière blanchâtre me tape vraiment sur le moral », s'exclame l'un d'entre eux dans le journal. Un autre touriste explique que les climatiseurs n'en finissent pas de ronronner, ce qui fait exploser la consommation électrique, indique Algérie Eco. Le site rappelle également que cet été, le record de consommation nationale d'électricité a été battu 2 fois, ce qui ne semble pas pour autant inquiéter les autorités. La société algérienne de l'électricité s'apprête même à exporter son surplus énergétique vers la Libye, nous apprend le journal Nahar.
Partons pour la Grèce avec vous, Clémence Athanasiadis. Coup d'œil sur les gros titres des journaux grecs.
À la une ici, les mesures annoncées par le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis afin de lutter contre la crise du logement. Des mesures en réponse à la flambée des prix de l'immobilier, écrit le quotidien Tanea. Le journal précise, le programme s'adresse aux étudiants, aux personnes ne dépassant pas 39 ans et aux ménages vulnérables. Sont prévus notamment des prêts immobiliers au faible taux d'intérêt, la rénovation de biens vacants afin de les louer à prix raisonnable ou encore la création de résidences étudiantes. Plusieurs fonds permettront de financer ce programme, souligne la chaîne de télévision IERT. Le défi est notamment de rendre la Grèce plus abordable pour ses jeunes. Le quotidien Ikathemerini a consacré un article sur les logements étudiants avec des loyers à Athènes qui, depuis 2017, ont augmenté de 53%. Des logements de toute façon devenus rares sur le marché. Une des raisons, écrit le journal, est la location courte durée, encouragée par un tourisme galopant.
Et nous voici enfin en Turquie avec vous, Rimi Trio. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. De quoi parlent les journaux turcs ce matin ?
De l'afflux de Russes en Turquie après l'annonce de la mobilisation partielle des réservistes par Vladimir Poutine hier. Les Russes se ruent sur les vols Moscou-Istanbul, titre le Middle East Eye. Le média en ligne relève qu'il n'y a plus aucune place disponible cette semaine dans les avions opérant la liaison entre la Russie et la Turquie. Le journal Diken explique lui que le site de réservation de billets le plus populaire de Russie, Aviasales, a été submergé de visites. Les Russes cherchent à échapper à l'enrôlement dans l'armée et la Turquie reste l'une des rares destinations accessibles. Ankara n'a pas fermé son espace aérien et les Russes peuvent entrer en Turquie sans visa. Ils sont des dizaines de milliers à avoir déjà fui leur pays via la Turquie depuis le début de la guerre en Ukraine.
Merci Rémi Trio, merci à nos correspondants. 6h54, dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin. Il est 6h57. Passez une très belle matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et c'est donc l'heure de retrouver Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Anissa.
Bonjour Dimitri.
Vous êtes déjà en place.